I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Underscore. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, c'est Underscore. Ça vous avait manqué puisqu'on est là maintenant tous les... Enfin, un mercredi sur deux à 19h pétante sur Twitch. Et on a un beau programme. On va parler d'IT, d'attaque informatique, plein de belles choses. J'espère que vous êtes bien installés.
Bah toujours, hein. Ces chaises sont d'une qualité incroyable.
C'est vrai, elles sont pas mal.
J'ai envie de raconter des bêtises.
Je vous l'avais vu sur mon plateau, il y a aujourd'hui Mathieu.
Et Bijot.
Que vous connaissez bien sûr. Et Nicolas Bouchaïb, presque en habitude de l'émission.
C'est ça, on peut le dire. Bah là maintenant, ça y est, je suis rodé, je suis chez moi.
Bah non mais c'est génial, tu es un peu notre expert data analyse finalement.
Je lui redonne plus l'adresse de l'émission quand il vient. Non mais à ce stade là.
Et ça c'est un niveau.
Ça veut dire que c'est un habitué.
Après, la dernière fois, on était en mode canapé, tranquille. Là, c'est ce que je disais en arrivant. Tout de suite, là, ça fait sérieux. J'ai l'impression de passer à l'oral. À la table et tout.
Il a dit, Dixit, c'est devenu la télé. Voilà.
Non, t'as dit ça? Oh my god. Le chat Twitch s'enflamme.
Je dis les choses. Et ben, j'espère que vous allez très bien. Tu peux nous rappeler un petit peu, justement, là, j'ai mentionné comme ça, data analyse, comme si... C'était quelque chose d'évident. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelle est ton expertise?
Alors moi, mon expertise, c'est d'analyser les données, mais des données particulières. Je cible les données qui sont sur les réseaux sociaux et sur le web, donc ce qu'on appelle les données sociales. Et souvent, on a vu un petit peu mon travail avec les cartographies, parce que je fais beaucoup de data visualisation. Je fais des, en gros, j'essaie de voir comment les communautés, elles interagissent ensemble. Et c'est ça mon métier, mais c'est compliqué de l'expliquer précisément.
Moi, j'ai une idée pour expliquer.
Ouais.
T'es genre un stalker de masse.
Waouh! Oh, les mots sont lâchés!
Tu regardes ce que les gens font.
C'est ça.
Mais à très grande échelle.
C'est ça. En gros, c'est vraiment ça. On va essayer de voir des patterns, de voir à une échelle très macro comment vont se comporter les gens de manière à justement comprendre les phénomènes d'influence qu'ils peuvent avoir. Souvent, on appelle ça comme ça. Et par exemple, quand il y a eu, on risque d'en parler, mais il y a eu par exemple la Pixel War, quand il y a des ZLAN, quand il y a des Z-Events, surtout moi sur Twitch, j'aime beaucoup travailler sur Twitch.
On va parler de tout ça, évidemment, je sais que vous avez hâte.
C'est ça, moi tous les phénomènes communautaires, en fait, souvent on les ressent, surtout quand on y participe, on voit qu'il y a des communautés qui bougent, qui se confrontent, et moi mon travail c'est, justement comme on peut voir là, c'est de dire ok, mais alors maintenant ce qu'on ressent, on va essayer de le voir. Et donc je fais, c'est pour ça que j'utilise de la data vis, de la data visualisation. Et donc je fais des graphes.
Est-ce que tu as un exemple justement, alors on va parler de plein de sujets dans cette émission, mais un exemple d'un truc sur lequel tu travailles par exemple?
En ce moment, alors j'ai toujours les cartographies Twitch. En gros, ça c'est un outil qui est assez récent, qui a un peu plus d'un an maintenant, mais qui est assez récent, qui est c'est mon outil qui me permet de faire un atlas de l'actualité de Twitch. Et c'est un outil sur lequel je travaille en continu parce que comme il est neuf, comme il est récent, il y a encore plein de possibilités à explorer. Et donc, par exemple, en ce moment, mon boulot, c'est de voir comment je peux comprendre ce qui s'est passé sur la plateforme par le prisme des données. Et donc, du coup, de montrer ce qui, d'habitude, tu ne peux pas voir si tu ne passes pas par la data.
Genre précisément, par exemple?
Précisément, de voir quels vont être les streamers qui vont partager des communautés similaires, quels vont être même des communautés qui vont être proches alors qu'elles peuvent sembler éloignées. Par exemple, de voir que la communauté de FIFA est proche de la communauté de Warzone. Si je te le dis comme ça, tu me dis, tu le sais pas forcément.
Bah ouais.
Mais en fait, ce sont deux communautés qui sont assez proches. Chacune sont très clusterisées sur leur jeu.
Ouais.
Mais à chaque fois que j'ai fait des cartos, ces deux communautés étaient toujours côte à côte.
Ok, c'est marrant.
Et donc ça, ce sont des choses...
Tu peux aussi voir les passe-temps un peu honteux de certaines communautés.
Souvent, on m'a souvent parlé de la nouvelle catégorie qu'il y a sur Twitch. Tout le monde me dit « Ah ouais, mais du coup, tu vas pouvoir spotter les gens qui sont sur les jacuzzi et tout ça.
Oui. »
Et à chaque fois, mon disclaimer, c'est « Techniquement, je pourrais.
Oui. »
Sauf que vu que j'ai plugué mon bot jusqu'à présent que sur le Twitch FR, et que sur le Twitch FR, on n'a pas cette catégorie-là, elle n'est pas active, je ne peux pas le voir.
Alors moi, je fais une demande officielle, et je sais que le chat sera avec moi. Il faut qu'on fasse une analyse. quelles sont les communautés
sont les plus proches
charo
Allez, let's go.
Non mais c'est de la science.
C'est très important. On mentionne Nicolas Bouchaïb sur Twitter. C'est très important.
En vrai, moi, ce que je dis toujours, c'est que je ne regarde pas les individus justement individuellement. Je regarde le phénomène de masse.
Oui, c'est donc, ça qui est marrant.
Mais j'allais dire un peu dans une définition un peu approximative que t'es un peu les instituts de sondage mais nouvelle génération.
Bah tout à fait.
Sur des vrais stats, c'est pas des approximations et tout machin.
Bien plus précis.
Et
oui.
Je suis pas un peu fier de cette définition. Et quelqu'un nous dit dans le chat que ça devait être fou. Alors voilà, j'ai perdu le message. Parce que ça devait être fou sur la Pixel War.
Ouais.
Et ben écoute, est-ce que ça va. C'est pas le sujet dont tu vas nous parler.
On risque d'en parler, en effet. On va peut-être voir ça. Alors on va parler de la. Vous verrez, on va parler de la Pixel War, mais sur un angle qui va sortir un petit peu de la cartographie. Donc pour une fois, je vais pas.
On va
forcément...
parler de triche.
C'est ça, on va parler. On va faire de la data analyse plutôt à l'ancienne avec des graphes plus classiques. Mais
il y a trop bien.
Toujours une petite carte qui traîne pour comprendre ce qui s'est passé.
Trop bien.
Et surtout, ce qui a été impressionnant pour la Pixel War, c'est de voir comment, en fait, le Twitch chez FR est une structure communautaire qui est vraiment stable. Ouais. C'est-à-dire que quand, au début, je la cartographiais tous les mois, et en fait, je me suis rendu compte qu'à l'échelle macro, le Twitch chez
pas
FR,
il change
pas
quoi.
Énormément. Ouais. Pour moi, c'est hyper intéressant de le faire régulièrement parce que quand tu zoomes et que tu regardes vraiment et que tu pousses, alors là, oui, ça bouge, ça se reconfigure, etc. Mais en fait, sinon, c'est assez stable. Tu vois, les gens qui suivent des streamers, ils vont pas changer du jour au lendemain qui suivent. Mais par contre, c'est hyper intéressant du coup de plugger, bah alors là, voilà, là vous avez l'exemple, de plugger mon bot juste sur un événement. Parce que là, on voit comment justement cette structure communautaire, elle va venir se prendre la forme en fait de l'événement, ouais. Comment ça, on va venir casser les communautés, les fusionner. Et ce qui était marrant, bah du coup, sur la cartographie que vous avez vue, c'est qu'on voit que Kameto est en plein centre, il est énorme.
Oui, c'est ça.
Et en fait, il a aspiré toutes les communautés à lui. Et c'est une de mes cartographies préférées parce qu'on voit même les petits paquets de viewers qui font l'aller-retour entre les streamers
et Kameto,
qui est le grand chef.
Par exemple,
c'est bien que vous n'avez pas trop vu cette carte parce qu'on va revenir dessus dans le détail. Je veux pas que tu nous spoiles trop.
Petite anecdote sur Nicolas. La première fois que tu es venu dans l'émission, c'était pour la cartographie de la ZLAN de l'année dernière.
Et, ouais.
Et qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? La ZLAN. De retour un an après.
Et on va également parler de la ZLAN d'ailleurs. En fin d'émission.
Que des transitions incroyables.
Qui est-ce qu'on va recevoir, Mathieu?
Le directeur technique de la ZLAN, celui qui s'occupait du réseau et de plein d'autres choses, il vous racontera.
Ça va être trop bien.
Ouais.
Ça va d'ailleurs, Mathieu?
Bah écoute, je
t'ai pas demandé, mais.
Non, mais je sors d'un Covid. Je sais pas si t'as remarqué, j'étais en télétravail pendant une semaine.
Si, ouais.
Et bah tiens, on s'est pas vu.
Non.
Bah du coup, voilà, petit Covid de famille.
Covid violent, Covid léger.
Covid moyen. Mais... Franchement, en vrai, j'avais une petite grippe. Hein.
Ah ouais?
Ouais, ouais.
Mais alors, point positif, ça t'a permis de suivre.
J'ai poncé la ZLAN comme j'avais. J'étais enfermé chez moi, je finissais mon confinement et donc du coup, j'ai vraiment
c'est trop bien.
Passé ma journée devant Twitch.
Voilà. Quelle époque pour être sur Twitch, hein, entre la ZLAN, la Pixel War, y avait Elden Ring avant où tout le monde y jouait, en ce moment Twitch.
Franchement, si tu veux perdre du temps en ce moment, c'est le bon timing.
C'est la période. Et puis, comment va la Micorp aussi?
Bah, la Micorp, j'ai l'impression qu'elle grandit à chaque émission nouvelle, elle grandit, Oui. Hier, on a fait l'exploit de publier l'annonce de l'émission depuis un bar, quand même.
Oui.
ça s'est vu en story.
C'était ça que tu utilisais pour illustrer le fait qu'on grandit.
Ouais. Bah ouais, parce que du coup, on se retrouve même dans des bars après les journées de travail. Tu vois, donc vraiment, on est pas loin
beaucoup.
De la multinationale, quoi.
Non, voilà. Sinon, quoi de neuf, quand même, on peut raconter un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait?
Et c'est vrai, on fait des vidéos globalement.
Non, mais il y a des actus quand même en ce moment.
Dis-nous.
Bah moi, je peux vous le dire.
Non, parce que moi, je sais pas.
Oui, t'es petit panique sur les non-disclosures.
qu'est-ce qui est confidentiel?
Et ben, on est actuellement en train de bouger de locaux, tout simplement.
Ah oui.
Alors, ne vous inquiétez pas, ce plateau va rester comme ça jusqu'à la fin de la saison.
Ouais.
Mais en parallèle de ça, on est en train de créer ce nouveau bureau finalement. Mais ce qui va être très cool.
Et ce qui est fou, c'est qu'on n'est plus au même endroit tous les jours.
Oui.
Les jours d'émission, on est là.
C'est vrai.
Et il y a des jours où on fait pas d'émission, on n'est pas là.
Et ça, c'est dingue. Mais je trouve qu'en vrai, même psychologiquement, il y a un petit renouveau, un air de nouveauté.
Ouais. Peut-être aussi parce qu'il fait beau maintenant.
Peut-être.
Non, mais c'est bête, mais on a commencé l'émission, il faisait pas nuit. Et ben moi, mon cerveau.
C'est vrai ça.
Ouais.
Bon, alors, vraiment, on est sur une discussion météo, c'est n'importe quoi.
Tu m'as dit que t'avais une anecdote à nous raconter.
En fait, j'ai découvert une histoire que, honnêtement, qui n'a pas grand chose d'IT, mais qui est incroyable. Il existe au Canada un chemin de fer de 200 pieds. Mmh. Ça fait environ 60 mètres. Et donc, du coup, on peut se dire, donc ça, c'est l'article qui raconte.
Oui.
On peut se dire pourquoi il y a une ligne de fer de 60 mètres. Donc, c'est à Bayside, au Canada, à la frontière avec les États-Unis. Et en fait, il faut savoir qu'il y a une loi qui s'appelle le Jones Act, C'est une loi qui exige que le transport maritime entre les ports américains soit effectué par des navires construits et battant pavillon américain.
D'accord.
Problème, il y a une société, je crois, canadienne, qui veut transporter des marchandises entre deux ports américains, mais qui bat pavillon canadien.
Ben oui.
Et donc avant, ils avaient des systèmes de... j'ai oublié un élément. Il y a une exception, pardon, à ce Jones Act, c'est que pour les marchandises qui font une partie du trajet par voie ferroviaire au Canada. Voilà, une exception. Tu peux prendre c'est un bateau bon, qui ne bat pas pavillon canadien si ça fait un parti du trajet sur une voie ferrée. Donc pendant un temps, c'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient une vraie partie de trajet, voilà, au Canada pour pouvoir faire cette petite douille, entre guillemets. Et sauf qu'ils se sont dit, comment on fait pour économiser de l'argent? Maintenant, donc t'as ton petit bateau qui part là, qui est canadien et tout, d'un port américain. Il s'arrête dans un port à la frontière au Canada. Il décharge toutes les marchandises. Ils les mettent dans des camions. Les camions, ils les mettent sur ce que vous voyez, c'est-à-dire un mini-train.
Ah oui, ils prennent pas la peine d'enlever le conteneur, en fait.
Ils mettent le camion sur le train. La locomotive que vous voyez fait un petit aller-retour. Donc là, vous avez vu le chemin entier, hein. Pendant une minute, la vidéo est finie. Ils reprennent le camion et la marchandise, ils la remettent sur un bateau et du coup, ils sont dans la légalité. Oh, il y a une voie ferrée de 60 mètres qui existe pour bypass une loi.
Une seule loi.
C'est incroyable.
Ça, c'est pas la définition.
Et j'ai découvert ça et vraiment, la vidéo est lunaire. Ça dure une minute et tu vois le train faire... Aïe! Ça n'a aucun sens.
Magnifique.
Et en fait, ils s'en sont aperçus. C'est devenu public parce que c'était caché.
Ouais.
Et du coup, maintenant, t'as l'administration qui fait oui, vous détournez l'esprit de la loi, vous êtes dans l'illégalité.
Eux, ils disent ce que vous voulez dire.
Et en fait, ils ont répondu, il n'y a pas de distance exigée. Alors peut-être qu'il y a des tribunaux maintenant dans l'affaire et tout machin.
Ça va sauter dans le week-end. Ça.
Mais ça date. Alors c'est pas super récent, ça date de quelques mois en tout cas l'article. Et je crois qu'ils font ça depuis plusieurs années.
Des génies.
Mais enfin c'est en même temps ridicule et en même temps génial. J'ai adoré cette histoire.
Et voilà. Magnifique. Moi aussi j'ai une petite histoire.
Oh.
Pareil comme toi, je me suis un peu ennuyé ce week-end. Et du coup, je suis tombé sur Twitter. Peut-être que si tu l'as vu passer, il y a OpenAI donc qui est la fameuse entreprise cofondée ou fondée par Elon Musk, qui sort très souvent des grosses dingueries et qui sont à la pointe de ce qui se fait en IA. Et très récemment, ils ont sorti une mise à jour d'un de leurs modèles qui s'appelle DALL-E.
Ouais, je l'ai vu passer, ouais.
Ah,
donc,
oui.
Évidemment, le jeu de mots avec le peintre, sauf que ça s'écrit comme Wally, voilà. Et c'est une dinguerie, tout simplement. C'est-à-dire que
j'avais pas capté le jeu de mots, pardon. J'y avais pas pensé.
Vraiment ?
Moi, j'avais pensé à Wally.
Ah oui. Aussi, okay. Les deux, quoi.
Triple,
oui. C'est le principe du jeu de mots.
J'ai pris tellement cher.
Et du coup, en fait, moi, je l'avais même pas vu la première version. C'est une dinguerie. La première chose que je me suis dit, c'est. On en a besoin maintenant pour faire des vignettes.
Ouais. Alors,
puisque je vous explique.
Ça, c'est vrai, il me l'a dit tout à l'heure dans le bureau.
C'est très fou. Je vous explique le principe. C'est très simple. C'est un algorithme qui, à partir d'une phrase que vous lui donnez, génère une image qui correspond. C'est tout. Ça peut être n'importe quoi. Et surtout, la nouveauté, c'est que ça peut être en n'importe quelle résolution. Ça peut être... il peut générer un simple dessin comme on a pu en voir généré par des IA ou un truc un petit peu avec un style de peinture. Mais aussi des photos, des trucs photoréalistes, quoi. Donc vraiment, tu te peux demander
par
une
exemple,
photo
si
qui
je
n'existe
mets
pas.
Micode fait du poney aquatique.
Oui, il peut totalement te générer une photo de...
Oh, alors, dans le chat, vos meilleures idées.
C'est pas sûr qu'il fasse la correspondance entre le mot micode et moi.
Ouais.
Donc, mais si tu mets quelqu'un, un homme, machin, ça va marcher. Je vous montre, si tu vas sur le thread Twitter, ils ont montré une liste d'exemples, finalement, de... comment avec des phrases différentes ça pouvait marcher, le temps que ça arrive je vous le tease, voilà, là typiquement c'est, il montre que justement tu peux en régénérer plusieurs fois, donc là c'est Gollum
écrit
son autobiographie, c'est tout. Tout a été généré par une IA.
C'est fou.
Non, c'est pas GPT-3, c'est DALL-E, et surtout tu le relances, il t'en génère une autre, tu vois. Donc là tout ça ce sont des images
Attends, mais il a compris Gollum en plus.
Mais oui, bien sûr. Voilà, justement,
bah non, mais Micode, il peut comprendre. Micode, Gollum.
Pareil. Non, je pense que quand c'est très, très, très connu culturellement, ça peut fonctionner. Et si tu reviens sur l'image d'avant, normalement, vous pouvez également aller chercher des trucs très fantaisistes. Par exemple, un astronaute qui chevauche un cheval, tu vois.
Voilà. Mais attends, mais
c'est abusé.
On dirait une photo.
C'est un... oui,
c'est ouf.
C'est un astronaute qui chevauche un cheval. Est-ce que tu vois comme moi le potentiel de
ouais,
ça?
Ouais, carrément.
Genre pour faire des mèmes, par exemple?
Ouais, mais quand je l'ai vu, quand j'ai vu que c'était sorti, j'avais mal compris. Je pensais que c'était déjà dispo. J'ai cherché partout le.
Moi aussi.
Il faut que j'essaye.
Je suis mis dans la wishlist.
Et non, c'est. Non, c'est pas dispo?
Non, je me suis mis en liste d'attente. Mais
d'accord.
mais j'espère vraiment qu'on pourrait avoir accès à ça parce que ce serait vraiment ouf.
Ça avance trop
vite. Mais ça a l'air. Mais
c'est la vitesse à laquelle ça avance, tu vois.
Mais après, je pense que t'as pris vraiment les meilleurs.
Oui, alors c'est comme d'habitude. Comme d'habitude, il montre ce qui est le plus fort, quoi. Mais par expérience, justement, on en débattait. Quand tu regardes l'historique d'OpenAI, alors oui, quand ils font des annonces, ils les font bien, ils sélectionnent les 10% les plus fous, mais c'est jamais trop survendu.
T'arrives à l'utiliser, l'outil derrière.
Enfin, GPT-3, c'était fou à l'annonce. C'est effectivement fou à l'usage, tu vois. Du coup, je suis quand même vachement hypé. Parce que honnêtement, pour ça, pour des vignettes, imagine. Le nombre de fois on s'est dit si jamais on pouvait trouver une photo de quelqu'un qui fait ça, ce serait fou.
Pense au pro.
Il y a Google qui dit je vais finir au chômage.
Oui, c'est ce que j'allais dire. On rassure nos graphistes actuellement.
Du coup, sinon il y a des boîtes qui ont besoin de moi.
Les présentations PowerPoint quand tu sais pas quoi mettre, tu dis j'ai besoin d'avoir 4 cadres qui travaillent autour d'une table.
Mais oui, des
Shutterstock, mais gratuits.
Mais c'est
enfin gratuit.
Infini. Bah alors, je sais pas si c'est gratuit.
Oui, non, mais avec outil. Pardon.
Genre le temps de process aussi, parce que si pour ton image,
ça va être bien loin.
Oui, si tu dois faire une présentation portant dans 5 minutes,
ouais, c'est ça,
peut-être
c'est...
que c'est compliqué.
Alors il y a quelqu'un dans le chat qui dit le cheval n'a pas de casque, c'est fake.
Ça n'a pas été précisé.
Ça, les bonnes stratégies. Non, mais ça va devenir de plus en plus compliqué, franchement, de vu comment c'est photoréaliste, d'aller déterminer sur des fake news, tu vois.
L'astronaute là, t'as vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a pris une photo. Hein.
Mais c'est qu'en 2 secondes, tu peux faire une d'un vieux tabloïd de merde, tu sais, genre telle personnalité au bras de.
Beaucoup
telle
trop de,
personne, tu vois.
Beaucoup trop de concepts de vidéos YouTube qui viennent à nous, là, Michael. Il faut absolument qu'on mette fin à cette émission et qu'on fasse un brainstorming.
D'une manière générale, avec ça et le deepfake, je pense que d'ici une bonne dizaine d'années, la perception qu'on aura des images qu'on verra
va changer.
Totalement changer, en fait. Ouais. De se dire que est-ce qu'un contenu il est vrai ou pas, tu vois, je pense qu'on ne sera plus du tout aussi crédule.
Ouais, et puis je pense qu'il va y avoir un travail aussi un peu de comment on éduque nos cerveaux en fait à comprendre
carrément.
Ok, non, ça c'est bizarre, ça c'est pas bizarre.
Et on remercie Basti pour son petit raid des familles.
Un petit raid des familles. Il y a même la pop-up de Gabin qui a marché.
Ouais, t'as vu.
Mais
je vois pas pourquoi tu en douterais d'ailleurs.
Parce que normalement, on implante une feature, elle marche pas la première fois, elle marche la deuxième. En vrai, ça fait longtemps qu'elle a été implantée cette feature.
Mais... Non, mais on commence à avoir une maturité qui a.
Ah, non, mais
premier degré dans tous les aspects de l'émission.
On a allumé le setup,
oui.
On n'a rien fait de particulier.
Alors,
ça marche.
S'il a allumé le setup, il a peut-être fait des trucs qu'on ne sait pas, mais en tout cas.
Non, je ne l'ai pas vu ça. Franchement, il a eu de bosser sur autre chose avant l'émission.
Bah
non.
Incroyable.
Ça marche incroyablement bien.
Bah non, mais on est juste les boss en fait. Comme je vous le disais, on a une grosse émission en prévision ce soir, puisqu'on va successivement évoquer donc le r/place qui s'est passé sur Reddit, la guerre des bots. La triche, tout ça.
A-t-elle eu lieu, oui.
Le piratage de la chaîne YouTube de Michou, qui était un gros sujet.
Ouais, du week-end.
La dernière semaine, exactement. Et de Thinkerview aussi. Et la Silane, en dernière partie, on va recevoir quelqu'un de passionnant qui va pouvoir nous parler un peu des coulisses, justement, de tout l'aspect technique et des petites anecdotes croustillantes.
Ah, il était sur place pendant tout le week-end, pour le coup. Donc il va pouvoir tout nous raconter.
Il va pouvoir tout nous dire.
J'ai demandé le gros week-end, il m'a dit non, ça va.
Il m'a fait la même, j'ai eu en appel lundi matin. Il m'a mis un mail méga tôt, j'étais là en mode mais non, repose-toi. Non, ça va.
J'en profite avant qu'on démarre. Si vous voulez utiliser le hashtag U_, vous n'hésitez pas. Ça nous permettra d'afficher vos tweets en haut à droite comme vous l'avez vu tout à l'heure.
Et comme ça, je peux vous espionner.
Et comme ça, totalement vous suivre.
Ah oui, parce que
oui, bah oui, avec de l'analyse de tweets. Et ça, c'est beau. Si vous voulez apparaître dans les cartes de Nicolas, il faut tweeter. Ça, la stratégie d'engagement. Mais avant tout ça, avant tout ce beau programme, Nicolas, c'est toi qui as enquêté sur cette fameuse histoire de triche sur r/place. C'est parti. Je le disais, Nicolas, tu es un peu notre expert cartographie, analyse de données en masse. Et donc, cette semaine, tu t'es intéressé à r/place. Je ne sais jamais comment le dire. Parce que, voilà, il faut le dire, il y a eu plein de dramas dans tous les sens. Nous, on s'est dit, s'il y a des gens qui peuvent
si
travailler là-dessus
temps,
et essayer d'élucider tout ça, c'est bien dans Underscore, finalement. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est, déjà Reddit, tout simplement, hein, on peut dire que c'est un métablog, un blog de blog,
un réseau social, une liste de forum.
Ils ont mis en place le 1er avril une page dédiée, donc r/place. Ils avaient déjà fait ça en 2017, il y a 5 ans. Ils l'ont refait cette année. Coup de tonnerre, énorme événement sur le Twitch game francophone, mais international aussi. Ouais, le concept, il est simple, c'est donc chaque utilisateur peut changer la couleur de 1 pixel toutes les 5 minutes sur une sorte de grand tableau blanc. Et voilà, du coup, on peut faire des jolis dessins finalement avec des grandes communautés.
Beaucoup de drapeaux.
Beaucoup de drapeaux.
C'est très nationaliste.
Ouais, c'est ça. Une durée limitée de 4 jours et à la fin, on a le tableau final. Donc tout le monde doit se battre pour défendre son dessin, etc. Sauf que cette année, il y a de gros streamers qui ont pris part au jeu et c'est devenu une pixel war. voilà, notamment surtout entre les communautés françaises, espagnoles et les américains. On s'est pas trop mal défendu, on peut le dire.
On les a explosés même.
On peut dire les termes. Plus de 400 000 viewers sur le live de Kameto à un moment qui était un petit peu voilà, le général finalement de toute cette opération.
Ça a été son surnom officiel.
C'est ça, c'était un délire. Il y a eu des coups bas, il y a eu des suspicions de triche. À base de bots, de sales affaires. Donc, tu as analysé tout ça et puis tu vas pouvoir tout nous dire.
C'est ça. Alors, en fait, comme tu as expliqué, la situation était assez bizarre parce que, en fait, Kamel, quand il a lancé son live, personne ne connaissait le Airplay en France et ils ont décidé de s'accaparer un énorme bout de la fresque. Et tout le week-end, la commu française a défendu cet énorme bout de drapeau à 400 000 viewers versus. Toute la communauté espagnole et un bon groupe de la communauté américaine. Donc en gros, ils étaient facilement...
C'est une très grosse communauté. La communauté espagnole sur Twitch.
Trois fois plus que les Français.
Okay.
Et en fait, les Espagnols et les Américains ont été hyper condescendants. Ils ne comprenaient pas comment les petits Français, qui n'avaient que 400 000 joueurs, pouvaient se protéger face à des XQC, des eBay, vraiment des énormes
très gros streamers.
Il y a même eu Asmongold et tout qui sont intervenus. Donc vraiment, on va dire, les plus gros streamers du Twitch game. Et pourtant, les Français ont défendu leur territoire et ils sont même allés gratter sur les plates-bandes des autres. Et donc tout de suite, l'argument qu'il y a eu de mauvaise foi, c'était « Ah, ils trichent, ils ont des bots ». Et donc du coup, ça a toujours été... les Français ont toujours dit « Non, il n'y avait pas de bots ». Et ce qui est très cool avec les Airplays de Reddit et même avec l'idéologie qu'il y a derrière Reddit, c'est que c'est très open data, en fait, Reddit. Et ils mettent à disposition, à la fin de l'événement, le dataset complet avec tous les logs de tous les pixels qui ont été posés pendant l'événement.
Donc ça veut dire que si tu analyses tout ça en profondeur, tu peux savoir tout ce qui s'est passé à n'importe quel moment.
Sans avoir à faire du scrapping à la main, etc.
Non, c'est ça. Mais en fait, tu peux juste en fait, prendre le dataset et même refaire un timelapse de montrer tout ce qui s'est passé. Tu as chaque pixel et avec le pseudo haché des personnes qui l'ont utilisé. Donc tu peux même savoir qui a posé enfin tu sais pas qui, mais tu peux savoir une même personne.
Suivre une même personne.
C'est ça, tu peux la suivre vu que c'est haché, mais t'as toujours le même
sujet. Ah oui, tu peux savoir ce qu'a dessiné une seule personne.
C'est ça. Et donc j'ai vu ça. J'ai passé mon week-end sur ce dataset. C'est incroyable.
Ah, moi sur la Zilan.
C'était en multithreading, j'avais la Zilan, la présidentielle, ça. Il y avait trop d'informations dans mon cerveau. Mais du coup, j'ai trouvé quelque chose et j'ai même peut-être plus de questions au final, une fois que c'est fini, que quand je me suis lancé dedans.
Ok.
Donc je vais vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer un petit peu ma démarche aussi qu'il y a eu. Alors il faut savoir qu'en fait la première chose que j'ai faite quand j'ai vu ce dataset,
tu nous dis que Kameto a triché, alors je suis abattu. Ne nous dis rien, on verra, je vous dis rien.
Mais
avant, est-ce que vous voulez savoir si notre audience a participé à Airplace?
Oh, de fou,
c'est possible, on a un sondage.
Non,
si, totalement. Et
wow.
Oui, oh, what? Mais même moi j'ai pas, par exemple, moi j'ai pas participé. Hein.
77% de
non, j'ai posé ma tune. Par contre, les modérateurs, ils y sont allés.
77% à avoir participé, et ça, c'est beau. Mais moi non plus, j'avoue, j'ai pas participé. J'étais
spectateur. Bah non, je crois que je sais même pas si j'ai un compte Reddit.
Dingue. Et ben du coup, ils sont tous suspendus à téléphone.
Ok, incroyable. Cool.
Alors, avez-vous triché? Alors. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré ce dataset. C'est en fait un CSV qui te donne. Alors le CSV, tu peux l'avoir en fragmenté en plein de petits fichiers ou un gros CSV. En tout, c'est à 20 gigas de data quand c'est décompressé. Et donc du coup, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai refait une heatmap. En fait, c'est pas moi qui ai eu l'idée, j'avais vu que ça s'était fait.
Mais c'est quoi une heatmap?
Alors la heatmap, c'était pour visualiser quelles étaient les zones de la pixel war où il y a eu le plus de combats, en fait.
Ah, okay.
Où les couleurs ont été les plus changées. Donc voilà, ça ressemble à ça.
Waouh, mais c'est un champ de bataille côté français là.
Alors justement, c'est ça, parce que plus c'est bleu foncé et plus les pixels ont été stables, Et plus c'est rouge, orangé, et plus en fait il y a eu une fréquence de changement de pixels qui a été intense.
Mais attends, c'est une carte de tranchée là.
Surtout on le voit pas quand tu vois le timelapse. Genre t'as pas cette info.
Ouais.
Bah surtout que ça fait souvent yo-yo en bas à gauche parce que les Espagnols attaquaient, les Français répondaient, les Espagnols attaquaient, et au final la fresque bougeait pas vraiment, juste elle oscillait.
Ah, il y en a, ils disent on reconnaît Zizou.
Ouais, et là tu peux voir la tête de Zizou. Ouais. Alors normalement, Gabin, tu peux zoomer un petit peu et vous allez voir la tête de Zizou hyper nette.
Mais
Oh,
c'est incroyable!
What?
Et alors, est-ce que vous voyez le truc absolument cursed en dessous en rouge foncé?
Juste
en dessous, c'est les yeux et le nez de Thomas Pesquet. Ça c'est parce que
coucou Thomas,
ça a été attaqué et ça a été défendu, et donc du coup il y a une grosse fréquence de changement sur cette zone là
c'est trop marrant.
Parce qu'il fallait bien défendre Thomas Pesquet.
On dirait une PCB un peu. Une carte mère.
Pardon, pardon. La vanne de geek.
Mange des cartes graphiques. Bon. Et ça c'est la première chose que j'ai faite, et c'est déjà juste la heatmap, c'est hyper marrant parce que ça raconte des histoires en fait. Si Gabin il va sur la, tout en haut il y a là ici il y a le drapeau du Canada, et on voit que le drapeau du Canada il ressort en rouge hyper foncé, et en fait le petit gag,
c'est-à-dire que tout le monde essayait de l'enlever.
En fait, c'est ça. C'est qu'en fait, les Canadiens ont essayé de faire leur drapeau en petit, en plus, hein, pas en grand. Et il y a une commune qui a décidé que non, ça ne se ferait pas. Et en fait, là, on voit la stratégie d'attaque, c'est que les Canadiens ont d'abord fait la feuille d'érable. Elle est même en vert clair, vu qu'elle est pas, elle a pas bougé. Ouais. Et en fait, on voit que là où ça s'est battu, c'est sur les bords.
Ah oui.
Parce qu'en fait, ils voulaient pas juste effacer la feuille d'érable. En fait, ils voulaient juste faire un cercle rouge autour.
Ah et oui. Donc, du coup,
là, c'est
vachement malin en termes d'attaque.
Mais ça sert à rien d'attaquer le milieu en fait. Ouais, si juste t'attaques les bords, t'as une boule rouge et
la nuisance. Quoi.
C'est ça, c'est tout à fait ça. Donc tu vois, ça raconte des petites histoires. Et au contraire, tu peux voir les zones qui ont été vachement respectées. C'est-à-dire que si tu dézoomes et que tu vas voir du côté. C'est en bas à droite, il y a Goldie Roger de One Piece. Bah, lui, il est vachement bleu foncé parce qu'une fois qu'il était fait, il était beau. Et les gens ont respecté l'art en fait et ils n'ont pas voulu forcément l'attaquer. Et donc, même de manière générale.
Les gens respectent l'art.
C'est ça.
Mais pas les drapeaux du Canada.
En fait, il y avait une espèce de convention de Genève, j'ai envie de dire, on n'attaque pas les monuments. Et en fait, là, c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il y avait un dessin qui était beau et qui n'était pas affilié à une grosse commu, tu vois, par exemple, si tu avais les Français, ils ont fait un moment, les communes de Reddit France ont fait des trucs assez stylés, mais ils n'étaient pas avec le Twitch FR. Et donc, du coup, même les étrangers n'attaquaient pas ces dessins-là parce qu'ils savaient que ce n'était pas rattaché aux mêmes personnes. Donc là, on voit le dessin de.
Magnifique.
De One Piece, du coup, Goldie Roger.
Si je peux me permettre, Zizou est un monument quand même, mais il a été attaqué.
Ouais, mais lui, en fait, c'était vu comme de la provoque. Il y a même des gens qui ont cru que c'était Poutine au début. Il y a des Américains, donc c'était Poutine au début, ils se sont dit c'est assez irrespectueux. Non, c'est Zizou, vous inquiétez pas.
Ah, je connaissais pas cette histoire.
Donc là, on voit par exemple One Piece, il ressort, mais lui en bleu foncé, parce que une fois qu'il a été fait, il a pas bougé.
Ouais.
Il a pas bougé. D'ailleurs, on voit même que c'est blanc autour, c'est-à-dire que c'est des pixels qui ont même pas été posés.
Ok.
C'est des zones, elles ont même pas été du tout.
Il y a des pixels qui ont jamais été posés.
Ouais. Parce que comme la fresque de base, elle est blanche. Si tu veux que ce soit blanc au fond, c'est bon.
Tu le laisses. Ok. D'accord.
Donc voilà pour ça. Ça c'était le premier truc que j'ai fait. J'ai fait une heatmap. Je l'avais sorti aussi en 3D et tout. En gros, je me marrais. J'avais un dataset. Tu vois. Je me suis dit, je me mets de côté. Lui, il va me servir. Ouais. C'est cool. Et en fait, ensuite, j'ai voulu faire une analyse de bot, parce qu'on en a discuté avec Mathieu, justement, et c'était revenu qu'il y avait des suspicions de triche, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'on disait que les Français avaient triché, mais les Français disaient aussi que les Espagnols trichaient avec des bots.
Le classique.
C'est ça. Donc je me suis dit, on a un dataset, la data ne ment pas. C'est mon argument avec les clients, la data ne ment pas. Comme la data ne ment pas, je peux tout simplement aller vérifier et vous dire. Donc la stratégie que j'ai prise, c'est en fait, d'utiliser ces pseudos de viewers qui sont hachés et de se dire, en fait, je vais prendre les personnes qui ont été les plus actives et je vais voir si ces personnes-là, elles sont suspectes. Mais en fait, là, je savais que j'allais me confronter à la problématique que j'ai même dans mon métier quand je détectais des bots, c'est que la frontière entre un bot et un humain bizarre, elle est vraiment fine.
Ouais.
Et donc, du coup, de savoir
cette
si...
phrase. La frontière entre un bot et un humain bizarre.
En fait, ça marche même sur... Des fois, on me demande de faire de la détection de bots sur Twitter, et c'est toujours des questions qui sont assez compliquées, parce que est-ce que c'est un bot ou est-ce que c'est juste une personne qui tweet de manière très bizarre et très suspecte,
mais qui ne dort jamais.
C'est ça, qui dort pas et qui envoie des copier-coller de partout et qui n'a pas de vie, mais cette personne existe, il y a vraiment quelqu'un, c'est pas un bot. Et donc du coup, je me suis orienté un petit peu face à cette problématique, mais je me suis dit, bon, j'ai un beau dataset, je vais essayer d'aller voir. Et comme je vous ai dit, la première chose que j'ai faite, c'est je suis allé chercher le top 10 000 des users qui ont été les plus actifs.
Okay.
Et je suis allé voir où est-ce qu'ils ont dessiné sur la fresque. Donc là, ça donne ça. Ici, c'est à quoi ressemble la fresque si on ne garde que les 10 000 utilisateurs les plus actifs.
En sachant qu'il y en a eu quoi, 10 millions hein,
en tout, il y en a eu 10 millions. Ouais. En tout, j'ai 10 millions de comptes différents qui ont interagi sur la carte. Donc là,
pas mal, hein. Pas mal pour un petit jeu du 1er avril.
C'est vrai.
Ouais, non, ça a été vachement. Ça a été assez impressionnant le nombre de personnes qui ont été mobilisées.
Okay.
Et donc là, on regarde les 10 000 personnes qui ont le plus posé de pixels. Et je garde pour chacun des pixels la couleur qui a été la plus posée. Parce que des fois, par exemple, sur le drapeau français, ça s'est battu. Ouais. Moi, je garde que le pixel qui a été le plus posé.
Très bien.
Bien battu sur le drapeau français, si je peux me permettre.
Et donc là, cette carte-là, 10 000, elle donne pas trop d'infos. Donc du coup, j'essaye avec 1 000. Et quand j'essaye avec 1 000...
Les 1 000 les plus actifs.
Les 1 000 les plus actifs. Et donc du coup, ça donne une carte plus épurée.
Ouais.
On avance, on voit qu'il y a des zones
qui sont... Du coup, on voit moins bien, logiquement.
C'est ça, on voit moins bien la carte parce qu'il y a des zones qui n'ont pas été attaquées par ces personnes-là.
Par ces gens, ouais.
Et ensuite, je réapplique un filtre parce que j'ai envie d'aller encore plus loin avec juste les 100 comptes qui ont été les plus actifs.
Okay.
Et là, j'obtiens cette fresque-là.
Ok.
Attends, mais il y a des trucs, qui ressortent.
Ouais, il y a pas mal de trucs qui ressortent. Et là, le premier truc qui nous saute aux yeux, c'est My Little Pony.
Ah, c'est ça !
C'est My Little Pony, le premier truc qui ressort. Alors, on le voit tout en haut à droite, tout en bas... Et en haut à gauche, les trucs qui sont vraiment en couleur, c'est des dessins aux couleurs de My Little Pony. Et donc, du coup, ce qu'on voit, c'est que dans les 100 utilisateurs les plus actifs, dans les 100 utilisateurs qui ont posé le plus de pixels de tout
soit quelqu'un était très, très motivé pour mettre ce poney.
C'est ça. Ou soit c'était une commu qui était déter, en fait. C'était une commu qui était hyper motivée.
Ouais.
On voit qu'il y a d'autres endroits aussi. Il y a le drapeau UK.
Est-ce que ça veut dire forcément que c'est un bot ou pas?
Alors justement, c'est là où on est arrivé un petit peu... je suis arrivé un peu au bout de cette piste-là. C'est de me dire, si je prends que les gens qui ont posé le plus de tuiles, bah ça se trouve, c'est juste qu'il y a quelqu'un, il n'a pas dormi pendant 48 heures. Ouais. Il a posé son pixel toutes les 5 minutes et puis voilà.
Peut-être les 100 personnes les plus actives sont fans de My Little Pony.
C'est ça. Puis
et let's go, quoi.
Puis en plus, comme c'est les personnes les plus actives, bah, potentiellement, peut-être que les autres étaient juste moins actifs et qu'elles ont fait ça en respectant les règles. Donc du coup, plutôt que d'aller voir en termes d'intensité, de quantité, je me suis dit, on va aller voir en termes de fréquence. Donc on va aller voir, en fait, combien de pixels, enfin, combien de minutes il y avait entre chaque pixel en moyenne posé par un utilisateur. Et donc là, je me dis, si j'ai des comptes, ils sont à 5 minutes tout pile. Je me dis, alors soit t'as vraiment quelqu'un qui a les yeux écarquillés sur son écran et qui veut pas rater à la seconde près son pixel, ou soit ça commence à être suspect.
Parce que c'est un pattern qui est particulièrement suspicieux et qui revient longtemps, quoi.
C'est ça, bah je me dis, si en moyenne la personne elle met son pixel en pile 5 minutes, c'est-à-dire qu'elle a même pas, enfin c'est-à-dire que soit elle a vraiment préparé à l'avance l'endroit précis où elle allait mettre son pixel.
Après, Kameto, il y avait les team hiver, team été, team printemps, team automne, c'était cadencé, hein.
C'est ça, mais il y a des fois, justement, ils disaient, bah attendez, la team hiver, attendez un petit peu, parce qu'on va se faire attaquer, donc laissez venir l'attaque, et nous on attaque après, tu vois. Donc tu sais, c'était pas aussi régulier que ça.
Mmh,
en fait, la meilleure technique pour détecter un bot, c'est si c'est trop régulier, parce que l'humain n'est pas hyper régulier, tu vois. Même t'as toujours des petits artefacts.
Donc du coup, t'as regardé la régularité, quoi.
C'est ça, j'ai regardé la régularité. Et donc la première chose que je suis allé voir, c'est que je me suis dit, bon, je vais faire pour tous les utilisateurs, enfin pour les utilisateurs, j'ai filtré sur la fin de l'événement, parce que je me suis dit, ça se trouve les bots ont été activés sur la fin, donc du coup ce serait biaisé. Donc du coup je me suis dit, je vais juste prendre sur la fin de l'événement, là où je suis sûr que les bots ils étaient tous actifs, et sur un intervalle de temps assez court, pour que par exemple si le bot il est mis sur pause ou quoi, on le voit pas.
Ouais.
Donc j'ai pris à partir du moment où les Espagnols ont lancé leur stream, et parce que je me suis dit c'était le rush final. En gros, quand les Espagnols sont arrivés à la toute fin, c'était le rush final, fallait défendre et après ça s'est arrêté. Et donc là j'ai fait ce calcul de delta. Faut savoir que ça a été un week-end assez chiant parce que j'étais sur la seule machine que j'avais dispo avait 16 gigas de RAM et le dataset on fait 20.
Le problème des data analystes.
Donc ça a été un peu chiant parce qu'il a fallu chunker le truc, le travailler le dataset étape par étape. Donc ça n'a pas été très compliqué, mais ça a été très long en fait en temps de process et tout parce que chaque étape je devais la répéter.
Alors tu sais qu'en tant que data analyste officiel, Underscore peut te sponsoriser là, avec grand plaisir.
En fait, quand je fais mes grosses cartos, etc., j'ai des machines avec énormément de RAM, mais justement elles étaient prises.
Ah oui.
Et donc là je me suis j'ai fait sur mon ordi ou ici ça
fait parce que forcément on a des demandes à la con.
Oui,
la pièce à voir, mais il a un vrai métier ce monsieur.
Et du coup ça a été vraiment la seule difficulté, c'était que bon bah je lance et puis j'attends que ça tourne et que ça le fasse étape par étape. Et donc ensuite là j'ai essayé de voir quels étaient les comptes qui avaient une fréquence entre 5 minutes tout pile et 6 minutes. Donc je me suis dit vraiment les comptes, soit c'est des humains vraiment vénères ou soit ce sont des comptes qui étaient très très réguliers ou des bots potentiellement. Et là, on voit que la carte, c'est pas exactement la même. Là, on voit des patterns qui ressortent, qui sont pas tout à fait ceux qu'on a vus. Donc, My Little Pony ressort, mais À gauche, le drapeau français ressort aussi, mais ouais. avec le logo BTS violet en énorme.
C'est vrai, ça.
Et ça, c'est les Espagnols.
Il est très net.
Il est très, très net.
C'est vrai qu'il est net.
Et alors, je me suis baladé aussi un peu sur le forum Reddit du Airplace, et il y avait des grosses suspicions de botting de la part des Néerlandais. Et c'est vrai que quand on regarde cette fréquence-là, les Néerlandais, ils ont... c'est assez net aussi leur fraise, donc toujours des suspicions. Mais c'est là où je suis tombé sur un truc que je n'explique pas, en fait. C'est que je t'ai dit que là, que j'avais regardé ceux qui étaient entre 5, enfin qui étaient en dessous de 6 minutes, en gros, ouais. qui avaient un temps inférieur à 6 minutes. Mais j'ai trouvé des comptes qui avaient une fréquence inférieure à 5 minutes.
What?
Ce qui est techniquement impossible. En fait.
Ah, ça, c'est bizarre.
Et alors là, voici les comptes, les pixels qu'ils ont utilisés en question.
Donc ça, c'est les comptes qui ont un intervalle inférieur à 5 minutes, alors que normalement,
ce qui est illégal.
Ne permet pas ça.
Normalement, c'est pas possible. En fait,
et d'ailleurs, je t'interromps juste 3 minutes, j'ai vu une vidéo de d'Akanir qui a essayé de faire un bot. Et il te dit que si via l'API tu poses des pixels mais moins de tous les 5 minutes, t'es ban.
Bah oui.
Parce qu'il le détecte.
Bah oui, ça me paraît.
Donc du coup, c'est très bizarre.
Mais tiens.
Non, je te laisse poursuivre, mais c'est
en
bizarre.
Fait, ça, c'est vraiment justement ce que je disais, le point d'interrogation que j'ai, c'est que, en fait, on a vu même les Espagnols, on l'a vu en live, hein, comment ils utilisaient leur bot. En fait, leur bot, c'était juste un truc, un script dans leur navigateur ouais. qui posait les pixels pour eux, mais il attendait les 5 minutes, et dès que c'était dispo, il le posait.
Ouais.
Et là, quelque chose auquel on était passé
en
à côté.
Plus, attends, on voit méga bien le truc ouais, BTS alors, là.
Le truc BTS, il ressort, mais super bien. On voit ressortir aussi en haut le drapeau espagnol un peu en longueur. On revoit sortir les trucs My Little Pony.
Non mais.
Et on voit ressortir aussi le drapeau UK, encore une fois, un petit peu.
Et
en fait, ça, du coup, ce sont tous les pixels qu'on a.
Ça, c'est
posés.
Les gens, ils sont dans l'illégalité, ces gens, si on résume. Hein.
Mais d'un point de vue technique, je n'ai aucune idée de comment ils ont fait pour passer cette moyenne, à part si. Ils ont botté.
Je suis sûr,
et ils se sont fait kick.
Non, mais il y avait un ingénieur Reddit dans la team qui a ouvert les vannes, tu vois.
Et ils ont filé une clé d'API.
Mais ouais, c'était en mode, allez, faites-le tous les 2-3 minutes, allez-y.
Après,
faites-vous plaisir.
Trouve, c'est juste des comptes qui testaient. Ils arrivaient à en poser quelques-uns, puis Reddit le voyait, ils les bannent, mais en gros, ils y allaient en mode.
Ah, mais là, ça voudrait dire qu'ils ont créé plein de comptes différents qui se sont fait ban pour faire leur logo BTS ou leur drapeau espagnol.
Bah d'ailleurs, quand le jeu s'est terminé à la fin et qu'on ne pouvait plus poser que des pixels blancs pour terminer,
ouais.
La première chose qu'on a vue, c'était le logo BTS en blanc, très net, parce que eux, que ce soit un pixel violet ou un pixel blanc, comme c'est du botting, le script, lui, une fois que les règles du jeu ont été changées, si on n'est pas rendu compte, il a continué à poser.
Ah ouais, ils ont
alors,
pas...
Alors, dans le chat, il y a des théories qui sont intéressantes. Notamment le fait que peut-être, enfin, potentiellement, les modos Reddit pouvaient glitch.
Ils auraient eu des règles... Les modos Reddit, auraient eu des règles
Reddit,
un peu particulières.
Et Reddit, avec Reddit Premium, apparemment, c'est pas vraiment un secret. Mm-hmm. Et que les timings pouvaient être inférieurs.
Parce que là, il y en a un, il tombe à 3 minutes et quelqu'un. Donc c'est vraiment beaucoup plus faible que la limite qu'on avait tous. Genre, il y en a un, il a une fréquence moyenne de 33 minutes, peut-être 30 secondes, même pas. Donc c'est-à-dire que là, t'as quand même un avantage stratégique si tu fais ça.
C'est pas impossible que ce soit du coup effectivement les admins.
Il y en a qui disent qu'il y a des vidéos de modos qui cheatent, apparemment. On est parti dans un drama du drama. Non mais alors non, on remarquera que les Français, il n'y a pas du tout le drapeau français en... Non. Accusé de bot toutes les 3 minutes ou
par
pas.
Contre,
genre, vraiment, nous, on n'a rien à se reprocher du coup.
Alors, est-ce que j'ai reçu un chèque de Kameto pour retirer ces pixels-là pour la chronique? Je n'en dirai pas.
Ah oui, t'as été payé, d'accord, ok.
On voit pas du tout ressortir le drapeau français. D'ailleurs, les streamers français n'ont jamais appelé à botter, il n'y avait même pas de script. Et là où il y avait eu en fait un quiproquo, c'était que dès le début, les Français, ils avaient un overlay. Qui leur permettait en fait en gros d'avoir un calque pour que
oui,
chacun
mais ça
sache
comme un peu tout le monde hein.
C'est ça en fait ouais. Et les Espagnols
tu peux t'arrêter parce que là il y a quand même Mickaël qui a renversé son verre d'eau.
Non mais ça arrive à tout le monde.
C'est le bon côté par rapport au clavier, c'est bon. Et j'ai perdu le fil. Oui, pardon. On avait un overlay et les Espagnols pensaient que c'était des bots. Et il y a Kameto qui a dû leur expliquer 10 fois, mais regarde, c'est pas un bot. Il lui a montré, il l'a désactivé, il l'a réactivé, il lui a dit regarde, c'est juste un calque. Comme ça,
c'est vraiment le principe d'un calque.
C'est ça. Et en fait, il y a ce même avec Bob l'éponge et Patrick, c'est où il y a 4 cases où il lui explique un truc et à la fin il dit. Ok, c'est un bot en fait. C'était impossible.
Alors que eux-mêmes, a priori.
Alors par contre, eux justement, on a des traces de botting dans le dataset.
Et de scripts aussi. Il y a des scripts qui ont fuité.
Et justement, oui, il y a des scripts qu'ils ont fait où eux, en fait, il y avait aussi un overlay, mais en plus, il y avait une auto-automatisation Et alors, le script que nous, on a vu, c'était pas des bots au sens où ils avaient une ferme à bots qui travaillait tout seul, ouais. Mais c'était plutôt pour que l'utilisateur qui est devant son écran, il n'ait pas à le faire, donc tu gagnes en efficacité.
Il soit lui-même un bot, en fait. Ouais.
C'est ça. Donc, en fait, tu n'avais pas cet aspect de bah, on va créer plein de comptes artificiels qui vont venir botter, mais c'était on va mais optimiser loin, ouais. Les gens qui sont là, en fait, ouais. Pour qu'ils soient plus réactifs. Quoi.
Ok, donc preuve de data, preuve de... tu vois, des scripts qu'on a trouvés.
C'est ça, même dans les streams qu'on a vus.
Je vais te demander, Nicolas, très officiellement, est-ce que... quel est ton pronostic sur qui a triché pendant la Pixel War?
Alors, on va dire que sont jugés non coupables les Français et sont jugés coupables les Espagnols. Reste à éclaircir si les Américains ont pris part à cette affaire de tricherie. Jusqu'à présent, rien ne laisse penser, mais l'enquête est encore ouverte.
Scandale!
Scandale! Scandale d'État!
C'est terrible.
Incroyable.
C'est
non, mais grave. Par contre, la démonstration.
Si c'est vrai, c'est très grave. Je voulais le caser un jour.
C'était un défi. Non, mais franchement, le logo BTS, c'est fou parce qu'il ressort vraiment, quoi.
C'est... non, mais c'est flagrant.
Je suis un peu impressionné.
C'est une preuve flagrante.
Ouais, irréfutable. Je sais pas si elle est réfutable. Mais incroyable.
Tu nous as régalé, franchement.
Franchement,
bah,
très,
merci.
Très belle enquête, très belle analyse.
Très stylé. Et les datas ne mentent pas.
Non, les datas ne mentent jamais.
On le rappelle, les datas ne mentent pas. Mais il paraît voilà, que tu as passé beaucoup de temps en plus à préparer ça.
Ouais, bah c'est
ah non, mais...
beaucoup de pixels. Là, je voyais le monde en pixels, en coordonnées.
C'est vrai que là, tu le racontes là, en 20 minutes, mais il y a un week-end de
d'analyse
ouais, de données.
J'ai
hein.
fait que ça. Pendant tout le week-end, j'étais là pendant ma ZLAN.
Alors, j'ai remarqué pendant cette chronique qu'il y avait potentiellement des petits soucis.
Oui, il y a des changements de caméra qui sont un peu chelous.
Oui,
on l'a tous constaté.
On n'avait aucun bug jusqu'à présent. Ce sont les premiers de cette soirée. Ça me paraît acceptable, finalement.
Oui. Voilà. Non, mais parce que je me suis fait payer par un message du chat qui dit qu'il y a des clips de Rubus et eBay qui ont installé le bot en live et le bot du chat qui spammait le lien. Ouais. Voilà, c'est le chat qui rajoute des petites infos comme ça pour nous
l'enquête.
Prouver que les Espagnols
c'est
ont triché.
C'est le chat Élise Lucet, finalement.
Après, c'est un chat français. Hein.
Pas visé. Salut, si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore, voilà, telle une fusée. On va revenir ensemble sur la sombre histoire qui est arrivée ce week-end à Michou, le youtubeur. On en parle juste après le jingle. Je suppose que c'est l'eau qui te fait rire comme
oui.
ça.
C'est vraiment il a renversé. Oh, merde, j'avais pas vu.
Ça commence à atteindre mon.
Ah, si tu peux passer en plan large, c'est incroyable ce qui se passe. Hein.
Mon iPad est un peu mouillé.
Alors si jamais quelqu'un dans les coulisses,
ouais, potentiellement,
veut nous rapporter du sopalin, on peut faire une pause de 2 minutes.
Merci,
parce que là, j'avais pas vu que ça avait.
Oui, moi non plus, ça a gagné du terrain. Pardon.
Non, mais t'inquiète, je vais meubler pendant que tu nettoies ta table. Ça mais vraiment, c'est une catastrophe.
Ce sont des choses qui arrivent. J'ai plus d'eau.
Oui, bah forcément, tu l'as foutu partout.
Non, okay. Mais écoute, je trouve qu'il est un petit peu crasse sur cette table.
Le budget hardware de cette émission en augmentation. Non, mais je crois qu'on a eu de la chance en plus.
Oui.
Parce que l'iPad est... Ah si, il y a peut-être le clavier, non.
C'est que la table est penchée, en fait.
Non,
le clavier...
waterproof, cet iPad.
Ok, très bien. Si le clavier est waterproof, suffit d'essorer le sopalin dans le verre, si tu veux de l'eau, me dit-on dans le chat.
Oh, gros dégoûtant, bah.
Mets tes mi-codes dans du riz. Voilà.
Ça marche toujours.
Le classique.
Je reprends mon introduction.
Je t'en prie.
À cette chronique. Je suppose que vous connaissez Michou. Si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur de 7 millions d'abonnés quand même.
Ça va.
Ah, c'est un peu on peut dire la figure de proue de un peu la nouvelle génération de YouTube.
Ouais, complètement.
Et ce week-end, il s'est fait rien de moins que pirater sa chaîne YouTube. Sa chaîne a même été supprimée pendant quelques temps. On imagine le petit coup de chaud de voir l'œuvre de sa vie réduite à néant. Heureusement, voilà, c'est revenu.
C'est chaud.
Que s'est-il passé ? Plusieurs personnes ont essayé d'analyser voilà, ce qui a pu arriver. On vous fait un petit résumé. Il y a des trucs assez intéressants. C'est pour toi, Mathieu.
Ouais, complètement. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de toute cette histoire. Et en effet, il y a des trucs passionnants. Et surtout des choses, je ne m'attendais pas à ce que les attaquants, finalement, parce qu'il y a des attaquants dans cette histoire, utilisent cette méthode. Enfin, franchement, je ne savais pas comment ils avaient fait pour récupérer le compte de Michou.
C'est vrai que tu te dis, attends quand même, une chaîne YouTube... Alors, surtout, c'est des business qui commencent.
Il y a Webedia derrière, gros, 7 enfin, millions d'abonnés. A priori, tu verrouilles un petit peu ton compte YouTube.
C'est une boîte du 440. Peut-être pas non plus, mais genre en termes d'importance, ouais. C'est monumental, quoi. Comment c'est possible?
Ouais. Et en plus, nous, c'est un peu notre métier aussi. Mais donc, oui. Ça m'intéressait de savoir à quel point on est vulnérable aussi. Ça fait un peu, honnêtement, ça fait un peu peur. Donc, en fait, tout a commencé samedi dernier. Donc, la chaîne de Michou s'est renommée Tesla Live et a diffusé un live où il y avait Elon Musk en Égérie qui faisait l'apologie des crypto-monnaies.
D'accord.
Voilà. Et en
mais
fait.
Il était présent physiquement?
Non, il était pas présent. Mais tu sais, c'est un overlay avec la tête d'Elon Musk, ça rassure. Et non, il était pas du tout présent. Elon Musk n'a rien à voir dans cette histoire.
C'est lui qui a hacké la chaîne, je pense.
Il y a un tweet de Michou qui dit.
Pas tout.
Pardon, j'étais pas au courant.
Non, mais il y a un tweet de Michou qui dit wesh, Elon Musk rend ma chaîne. Mais évidemment, c'est pas lui. Donc, ça, voilà, ça c'était le live qui était diffusé. Et donc, en fait, le live te dit investissez dans la crypto-monnaie, c'est le futur. Posez de la crypto-monnaie là-dedans et on vous envoie le double.
Oui.
Évidemment.
Mais quelle aubaine.
Quelle aubaine. Faites tout ça maintenant.
J'envoie de l'argent sur ton compte crypto et tu me renvoies le double.
Exactement.
Promis juré.
Promis juré craché. T'as pas besoin de signature, fais-moi confiance. Donc ça, c'était le deal, évidemment, où on n'en voit rien du tout. Et d'après les registres blockchain, via le piratage de Michou, alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a peut-être d'autres piratages en cours, mais il y a eu quand même 300 000 dollars en crypto hein, de récupérer. Donc on peut comprendre que c'est rentable pour,
ah oui, quand même.
Pour les malfrats.
Mais ça, je pense, c'est une bonne info parce que intuitivement, tu te dis bon, plus de peur que de mal, ouais. Personne ne va se faire avoir par ce truc.
Mais en plus, c'est fourbe parce que c'est des audiences un peu jeunes et donc forcément, t'as moins de vécu, tu sais moins comment ça
mais
marche.
Mais tu te dirais que justement, ils n'ont pas forcément de carte bleue, etc.
C'est vrai. Mais peut-être que, tu sais, maintenant, la jeunesse.
300K, c'est incroyable.
C'est ouf. Alors, c'est pas forcément que le piratage de Michou, hein, mais ouais. En tout cas, via des échanges sur les registres et la blockchain, on peut savoir combien il y a d'argent brassé. Et voilà, donc là, c'est 300K. La faute à qui, cette histoire? On a envie de savoir, la faute à qui. Donc Michou, il a tweeté, j'ai perdu le contrôle de ma chaîne YouTube. Il regardait le live, il était en mode...
Spectateur,
comment je fais? Dans le même temps, il y a Thinkerview, qui aussi s'est fait pirater sa chaîne YouTube. Donc Thinkerview, c'est une chaîne YouTube, pareil, qui doit 1 ou 2 millions d'abonnés. Même problème, ils ont même fait un tweet à YouTube en mode « On est dans la même merde que Michou !» Voilà.
C'est fou parce que Thinkerview, il se présente comme un collectif de hackers, à la base.
Oui,
donc c'est surprenant.
Ouais. Un petit, alors effectivement, de culture un peu hacking
oui,
dans
ils
ces,
ont reçu les hackers
dans ces milieux-là. Donc preuve supplémentaire que visiblement la technique doit être assez avancée.
Ouais, efficace,
et la technique est avancée et en fait elle est méga utilisée. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines, je sais pas, mais de youtubeurs qui sont en train d'avoir.
J'ai très hâte de la connaître.
Mais par exemple, il y a Eliox qu'on a reçu dans cette émission,
oui.
qui a subi un piratage à peu près du même acabit. Il y a Solari, la web télé, qui a subi ça récemment. Il y a un monsieur qui s'appelle Mister Lev 12 qui fait du Call of.
Mister Lev 12.
Ouais.
C'est un énorme YouTuber.
Oui, il a un million d'abonnés.
Oui.
Ouais, mais c'est juste que je regarde pas Call of.
En fait, je suis déjà le chat et je fais déjà le commentaire. MDR, comment il a dit Monsieur le V12?
Merci. Bref, il y a plein et ça c'est les Français. Il y a évidemment plein d'autres YouTubeurs anglophones ou partout dans le monde. Le pire, c'est que très souvent la chaîne est après automatiquement supprimée, mais par YouTube, pas par les attaquants. C'est qu'en fait il y a un live qui est diffusé sur ta chaîne YouTube. Il ne respecte pas les conditions de YouTube parce que voilà, on incite à envoyer de la crypto-monnaie et tout. Et du coup YouTube a un bot et ça te cut ta chaîne. T'imagines? Tu t'appelles Michou, ça fait 5 ans que t'as rassemblé 7 millions d'abonnés, puis jour au lendemain, coucou, est-ce que quelqu'un a du travail? Et en fait, bon, forcément, après, ils contactent YouTube, souvent, il y a une vérification humaine qui est faite, donc la chaîne réapparaît, mais dans la plupart des cas, Thinkerview, par exemple, quand j'ai regardé avant l'émission, il y a une ou deux heures, la chaîne n'était pas de nouveau en ligne.
Ouais.
On peut plus regarder Thinkerview en ce moment. Donc quand même, c'est un peu chiant.
Et c'est vrai que, je peux le dire, le support YouTube... pour les youtubeurs, n'est pas ce qu'on peut appeler le truc le plus réactif au monde, tu vois.
Comme tu y vas fort. Ben moi, je sais pas,
par rapport à Twitch, par exemple, tu vois, entre le lien avec les créateurs est très faible.
Ok. Du coup, comment ils se font avoir? À la base de la base, un peu comme dans toutes les attaques, c'est du phishing. Mais c'est du phishing malin. Déjà, parce qu'ils te contactent pour une OP. Et on le sait, les youtubeurs aiment l'argent. On aime la pub. Non, quoi en fait, là où ils sont malins, c'est qu'en fait, ils envoient des mails aux mails commerciaux, aux partenaires de chaque youtubeur.
Ouais.
Et en fait, ces mails-là, ils sont lus par plusieurs personnes. Michou, il y a plusieurs commerciaux. Même nous, on a Julie, notre agent, qui lit les mails pour les OP. Donc déjà, ça multiplie le nombre de gens qui lisent leurs mails. Donc, le nombre potentiellement de gens qui vont cliquer sur un lien frauduleux. Première chose. Deuxième chose, ils balancent pas un lien en mode « Allez-y, télécharge mon jeu et tout machin ». Ils établissent une relation de confiance.
D'abord.
Bonjour, on est relation influenceur, manager, tout ça machin. On a une OP à vous proposer. Il y a des échanges de mails et tout machin. Et à un moment, il va te dire « Si vous voulez tester notre nouveau jeu, voici une version, la nouvelle version ou la version sans blocage, tout débridé, spécial influenceur, ou alors un jeu qui n'est pas sorti, ou parfois c'est packagé même dans les logiciels classiques, genre Zoom, des trucs comme ça. » Bref, forcément, si tu cliques sur le lien...
Mais tu te fais avoir à tous les coups, mec.
Eh ben, non mais... Franchement, avec tout ça, la mise en confiance, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui lisent des mails, donc si ça se trouve, c'est pas la même personne qui a répondu et que la même personne, c'est pas la même personne qui a cliqué, etc. Franchement, moi je me suis mis à notre place, j'ai commencé à flipper un peu.
Mais on peut se faire
avoir. J'ai pensé à tous les gens qui ont accès à la boîte mail Bicode, j'ai fait aïe aïe aïe.
J'avais vu que ça pouvait être même dans un PDF, genre le PDF c'est le truc le plus flat, le truc où tu te dis c'est un fichier imprimé, tu vois, genre tu peux pas et peut rien avoir dans un PDF. Moi je vois un point PDF, je clique, tu vois, alors que pourtant je suis.
Exactement.
Je fais attention.
Et donc forcément, si tu cliques, ça installe un malware en soum-soum, quoi.
Voilà.
Et qu'est-ce qui fait ce malware? Et là pour le coup. On a plusieurs personnes, alors notamment un canier dont je parlais tout à l'heure, qui ont essayé d'analyser en fait ce qu'il y a derrière ce malware. Ils ont rétro-engineering le malware.
On y a accès. Quelqu'un a mis la main dessus.
Complètement.
C'est intéressant ça.
Exactement. L'ai sur une clé USB si tu veux.
mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, parfois, les cybercriminels se débrouillent pour effacer très bien leurs traces.
Ben là, par exemple, typiquement, il y en a plusieurs, hein, mais si je prends l'exemple d'Akenir, c'est un YouTuber. Donc je sais pas comment il l'a eu, mais peut-être qu'il a reçu un.
Le mail en question.
Je sais, j'aurais dû lui demander avant l'émission, j'ai oublié. Ouais. Mais si jamais il est dans le chat, dis-le. mais voilà. Donc apparemment, il y a un malware, en tout cas un type de malware, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, qui est en circulation. Ils l'ont rétro-ingénieré. Il y a des trucs rigolos, notamment il y a des noms de variables, je crois, ou de méthodes, je sais plus, avec marqué virus dedans. Voilà, virus donne la dead. Allez, let's go quoi.
C'est transparent, moi.
Autre chose qu'on voit dans l'analyse du code, c'est que ça utilise Discord. Et ça, c'est pas la première fois. Souvent, dans des attaques, en fait, Discord, ils ont pas un système très safe pour vérifier si c'est pas des fichiers vérolés. Et donc du coup, ça en renvoie sur même sans utiliser Discord, ça en renvoie sur un lien hébergé sur Discord.
Exact.
Et du coup, on peut télécharger un truc un peu.
C'est un bon moyen de stocker du virus.
Honnêtement, c'est très très bon moyen. Voilà, et c'est assez courant. Qu'est-ce que fait le malware? Parce que là, on sait un peu comment il est construit, mais on sait pas encore ce qu'il fait. Et donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le malware, Mickaël.
C'est vrai?
C'est faux. Il y a des gens qui l'ont fait pour
moi.
Notre
chaîne YouTube est partie.
Non, je ne l'ai pas fait parce que, petit flip,
mais
en plus j'y ai pas accès pour le coup. Mais par exemple, Akenir l'a fait. Donc on le lance dans une VM, cloisonnée, on fait attention. Mais quand même, moi je serais pas à l'aise, surtout que je suis connecté à des chaînes YouTube. Alors, ils l'ont lancé et en fait, ils ont découvert tout simplement que le malware, il vole le cookie de connexion à un compte Google. Et en fait, si t'as ça, c'est comme si t'étais connecté sur un ordi public, tu t'étais connecté à ton Google, t'étais parti et tu t'étais pas déconnecté. Donc t'as pas besoin de double authentification, de mot de passe et tout. T'es connecté.
Ça se passe après tout ça en fait.
Exactement. Et alors le seul truc, c'est que je crois que les cookies ont des délais d'expiration, mais tant que tu fais ça dans un délai raisonnable, honnêtement je connais pas la end time
ça dépend des cookies en fait.
Mais voilà, et donc en fait tu voles le cookie, tu l'envoies à l'attaquant, et l'attaquant a accès à ta chaîne YouTube.
Il a juste en plus, tu as des extensions, tu peux faire ça. Tu peux le charger un cookie dans la page Google.
Bien sûr.
Tu recharges ta page et hop.
Évidemment, c'est la chose la plus simple au monde. On a fait une vidéo sur les cookies récemment. on peut analyser les cookies, c'est très très simple. Et donc, c'est exactement ce que ça fait. Ça envoie le cookie et après, lui, hop, accès YouTube. Il peut delete des admins de la chaîne YouTube.
Ça me semble fou. Souvent, quand tu as des trucs importants à faire dans des comptes, même par exemple, si tu veux changer ton mot de passe ou un truc dans le genre, ça te demande toujours justement de bien revérifier que tu es là. Et là, sur YouTube, du coup, tu peux genre supprimer un admin et juste.
Je pense que pour certaines actions très précises, ils te redemandent à ce moment-là de te connecter.
Ouais.
Mais effectivement, pas tout le temps, parce que sinon ce serait insupportable. Ouais. Tu vois, dès que tu veux lancer un live, mettre une vidéo, que tu te reconnecter.
Ouais. Alors ça, c'est sûr que non, déjà. Sûr, ouais. Mais il peut pas modifier l'honneur, je pense, de la chaîne.
Non.
Parce qu'il y a honneur et admin. Mmh.
Il peut pas la supprimer non plus.
Non. Par contre, je me suis posé la question, ouais, est-ce qu'on peut supprimer des vidéos? Je pense que oui.
Oui.
Et je me suis dit, c'est marrant parce qu'apparemment, ils font pas ça. Ils lancent des lives, ils changent toute la DA, mais ils touchent pas aux anciennes vidéos. Peut-être pour garder en crédibilité ou quoi, parce que tu pourrais dire, je wipe la chaîne de Michou,
oui,
et je suis pas sûr que YouTube puisse restaurer facilement.
Si, je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Ils le font régulièrement quand il y a des erreurs de gros youtubeurs, c'est de récupérer des vidéos.
Ouais, parce que quand il y a le.
La donnée est tellement dupliquée sur toute la Terre que.
Parce que quand tu fais supprimer, ils te mettent un gros message en mode attention, on peut pas revenir en arrière.
C'est définitif.
Ils le feront pas si tu t'es juste trompé, tu vois. Si tu t'es fait pirater, oui.
Ou si t'es à 100 abonnés, je pense.
Ouais, aussi.
Exactement. Et donc, du coup, là, forcément, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a une grosse chaîne à 7 millions? Eux ont choisi la crypto pour gagner des sous et diffuser un live, mais on pourrait faire plein d'autres choses. Je sais pas, oui, tu ferais quoi si t'avais accès à la chaîne Michou dans le chat? Qu'est-ce que vous avez accès à une chaîne avec 7 millions d'abonnés?
Un featuring avec Michou, mais genre où tu génères tout son texte avec de l'IA et tu lui fais bouger comme ça sa bouche,
un deepfake, ouais.
Et tu le mets par exemple sur, mais un truc pas très bien fait, tu vois, et tu le mets sur une pancarte comme ça et tu fais un concept genre comme si de rien n'était.
C'est pas mal, c'est parce qu'en plus il va pas s'en apercevoir tout de suite.
Mais j'espère quand même. Putain, je joue vachement mal là.
Enfin bref, tout ça pour conclure que, ah oui, non, j'ai pas tout à fait pour conclure, en fait c'est comme les ransomware. C'est que ce genre de choses, c'est pas forcément une personne qui a fait le malware, qui l'a envoyé,
oui,
qui l'installe et tout. Souvent, il y a une personne qui fait le malware, qui le vend. Il y a quelqu'un potentiellement qui va l'acheter, qui va essayer de le répandre en envoyant plein de mails et tout. Et parfois même, c'est une personne différente qui va utiliser un cookie de connexion pour se connecter à la chaîne.
Il y a un marché noir.
Exactement, il y a un marché noir. Il y a des forums qui existent où vous pouvez acheter une chaîne YouTube. Enfin, une connexion à une chaîne YouTube. Il y a marqué le nombre d'abonnés, il fait « let's go ». C'est
j'achète. C'est incroyable.
Et je diffuse un live crypto-monnaie dessus. Donc en fait, c'est des personnes différentes.
Ouais.
Forcément, il y a des affiliés, il y a ceux qui font le malware. C'est des gens qui ont des technicités, on va dire, dans ce qu'ils font différentes. Ouais. Si c'est juste se connecter à un compte YouTube, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'acheter le cookie de connexion, quoi.
On peut d'ailleurs comprendre que c'est probablement pas quelqu'un un francophone qui aurait fait une attaque ciblée sur, ouais, Michou. Ça, quand tu vois l'arnaque, ça pue le truc complètement automatisé, ouais, fait à grande échelle.
Et après, t'as potentiellement.
Et heureusement, en fait.
Ouais.
Parce que ce que pourrait faire quelqu'un avec une attaque ciblée qui posséderait la chaîne de Michou à 7 millions d'abonnés, je pense que c'est bien pire que de faire un live Elon Musk, à mon avis.
Ouais, qu'est-ce qu'il ferait du coup, à ton avis?
À mon avis, tu pourrais augmenter drastiquement la crédibilité en connaissant qui est Michou, qu'est-ce qu'il a l'habitude de faire, comment est-ce qu'il parle.
Ouais.
Je pense que tu pourrais faire des scams très très violents.
Là sans doute il y a quelqu'un qui il y a sans doute quelqu'un qui a envoyé à tous les youtubeurs qui connaît, oui, francophone et tout machin. Il
s'automatise très bien en fait.
Ouais, c'est, ouais, ça. Et du coup, est-ce qu'on l'a reçu ce mail? Faudrait qu'on regarde.
Ouais, on va regarder ce
mais voilà comment ça s'est passé. Alors la faute à qui? Et ben, en fait, c'est Michou, on le dit, c'est une grosse star de YouTube et du web. Et ben, il y a potentiellement 10 personnes peut-être qui ont accès, oui, à ses mails, plus potentiellement des potes à lui qui ont accès à sa chaîne YouTube,
oh,
des commerciaux. Ben, j'en sais rien.
Oui,
mais,
c'est vrai.
Enfin, on en parlait, mais même avec Hardis, il me disait voilà, ben, j'ai une assistante de prod,
bah, oui,
un monteur, un commercial. Nous,
ça peut
en vrai,
venir de plein d'endroits. Pareil.
Ça peut venir de plein d'endroits. Donc en fait, peut-être que Michou, il a rien à se reprocher.
Voilà,
plus vraisemblablement.
C'est ça. Et même
mais par contre, il y a un commercial à Webedia qui actuellement suit un petit peu là, hop, comme ça, hop. J'ai peut-être cliqué sur un lien qu'il fallait pas, c'est dommage. Voilà, c'est très dommage.
Et on peut le dire, même cette personne là voilà, ça arrive à tout le monde, des grosses bêtises, et c'était très bien fait, tout le monde pourrait se faire avoir.
Et en préparant ça, honnêtement, ça a fait petite piqûre de rappel en mode faut faire gaffe, parce que parfois les journées de travail sont longues, il y a un truc qui nous saoule, on lit un mail à 18h, à 19h, à je sais pas quelle heure.
T'installes un truc
et ça installe un truc toi. Et donc nous, ça nous met une petite piqûre de rappel.
Le petit bonus rigolo, c'est que potentiellement, il y a des gens chez Thinkerview qui installent des jeux de gaming pour des OP.
Faudrait,
et ça, c'est un peu drôle.
Faudrait essayer qu'on rentre en contact avec eux. Peut-être que eux, c'est un bien. Mais c'est vrai que c'est rigolo. J'ai pas pensé.
C'est marrant.
Pas dopé.
D'ailleurs, si vous pouvez nous dire si elle est enfin revenu la chaîne de Thinkerview, parce que je sais qu'ils ont contacté YouTube, donc normalement, ça va revenir. Mais voilà. Et du coup, j'en profite pour remercier tous les gens qui ont fait un peu l'analyse technique. Donc, ils sont plusieurs sur Twitter. Je me suis principalement inspiré du thread très très bien documenté d'Akanir, mais il y en a d'autres. Donc voilà. Merci à eux. Comme ça, j'ai pas eu à lancer de malware sur une machine du boulot. Je pense que tu es
merci,
très content.
Merci, je vous remercie. Je vous remercie. Et petite note d'ailleurs de fin de Kenyer, il dit que lui, s'il avait notre chaîne YouTube, il diffuserait des recettes de cuisine genre avec trois fous qui font des crêpes.
Alors,
idée random
au hasard.
Kenyer est dans le chat du coup.
Oui, il fallait être là le 1er avril pour avoir cette référence.
Voilà. Et merci beaucoup à Kenyer.
Voilà. Très stylé, franchement. J'avais pas forcément pensé à ce biais-là pour
créer une chaîne YouTube. Franchement, les cookies, enfin le cookie connexion,
je savais que c'était possible.
Ouais.
Mais le coup de vraiment se faire passer pour une agence crédible et de faire un échange de mails avant, très très smart. Très fort.
Franchement.
Le hacking social, de toute façon, justement, tu vas target une personne lui-même. Souvent, moi, j'étais allé à une conférence où il parlait du mail du patron qui est en vacances. Il voit que le patron est en vacances et ils envoient un mail.
L'arnaque au président.
Tiens, ouais, je suis en vacances, j'ai besoin d'accéder vite à ce dossier-là. Et puis, ça a été foutu.
Ça, c'est le pire. Si on a d'autres virus, il faut qu'on les envoie à Kenya, apparemment.
Alors, moi, j'ai eu le Covid la semaine dernière. À Kenya, tu me dis. Hein,
vous pouvez le transmettre avec plaisir. Mathieu.
Ouais, dis-moi. Tu cherches peut-être tes mots et
non,
ta
non,
transition
je...
pour
pas du tout.
Pour la je partie vois pas de suivante. Je te colère un petit peu, Mickaël.
Merci pour cette belle chronique, cette explication.
Ben voilà.
On va faire un petit point aussi demain avec Julie, notre agent, pour un petit rappel des règles de sécurité.
Julie, tu peux te caler une réunion avec nous demain, s'il te plaît.
Avec tout le monde.
Tout le monde.
D'ailleurs, voilà, une des techniques pour s'en protéger, c'est aussi de séparer peut-être les chaînes YouTube dans des comptes Google.
Ouais, et les navigateurs aussi potentiellement, pour pas avoir le même cookie de connexion sur par exemple le mail où tu gères tes OP et le mail où tu es connecté à ta chaîne YouTube. Et
totalement.
Donc, je pense qu'il faut.
Il y a des petites strates.
Il y a des petites strates, mais ça devient un peu chiant quand même. Faut bien tout séparer.
On va poursuivre.
Nettoyer tout ton. Tu sais, genre, tu mets dans d'autres navigateurs.
Bah, si c'est dans d'autres navigateurs, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est
ça. Je pense pas qu'il va aller sur ton ordi et qu'il juste va tout fouiller, tu vois.
Ah, je suis pas sûr que ça soit.
Je sais pas si ça se lance.
Ou alors, t'as une machine dédiée sur laquelle tu lances les programmes qu'on t'envoie. Je dis ça pas en rigolant. C'est-à-dire que, en vrai.
Une machine virtuelle pour les mails.
Ou une machine virtuelle.
Là, ça commence à être un peu chiant au quotidien.
Et on va continuer cette émission avec notre petite rubrique qui s'appelle Upvote. Et on va accueillir quelqu'un qui va nous parler des coulisses de la ZLAN. C'est parti.
Ok, le t-shirt ZLAN.
Bienvenue.
Hello.
On accueille donc, comme vous l'avez vu. Ah non, vous l'avez pas vu. Parce que parfois, ça coupe pendant et il y a la transition marchage qui est pas forcément la plus smooth de la Terre.
Ah voilà.
Donc c'est une histoire de budget. C'est ça. Dans Upvote, cette semaine, notre talent du jour, c'est quelqu'un que vous connaissez sans le connaître, puisque c'est un homme de l'ombre, on peut le dire.
C'est ça.
C'est un homme de l'ombre.
C'est une première Timothée devant la caméra.
C'est ça.
Ah
bienvenue.
Ouais
bah ouais.
Ah bah
moi, je suis en régie d'habitude.
Oui, bah oui, j'ai
pas de problème.
Mais c'est ça qui est beau avec Underscore. C'est qu'on accueille les gens de l'ombre, les gens dans les coulisses. Et donc, comment on peut décrire ce que tu fais? Tu es directeur technique de la ZLAN?
Je suis directeur technique de ZQSD.
Ouais.
Donc, c'est plus tout ce qui va être... dans le sens informatique, donc système, réseau, etc. Et après, ZQSD, comme on est une boîte d'événementiel, on a un directeur technique audiovisuel.
Ok.
Donc sur les événements, c'est lui qui va gérer tout ce qui va être lumière, son, etc.
Ça. Mais
donc
toi, c'est le réseau.
C'est réseau et c'est ça.
Ok.
On nous dit directeur tactique des Michel. Parce que tous les techniciens de la ZLAN s'appelaient des Michel.
Mais donc tu es un Michel.
Je suis un Michel.
Oh, on reçoit un Michel.
Mais c'est rare que les gens voient un Michel.
C'est très très rare. On est assez discret.
Et tout le monde dit bonjour Michel dans le chat. Ça n'a aucun sens.
Alors pour présenter un petit peu, pour ceux qui ne connaîtraient pas la ZLAN, c'est un événement qui est écrit par Zerator, le fameux, sur Twitch tous les ans, si je ne me trompe pas. C'est une LAN multi-gaming qui est quand même relativement originale.
Ouais.
Et donc avec 230 joueurs sur tout un week-end, avec un cash prize de plus de 50 000 balles.
Quand même, hein.
Quand même, ouais.
Quand même, hein.
Et alors cette année, la nouveauté, c'est qu'il y avait même un public. Et je crois que ça a dû monter jusqu'à 200 000 viewers, quelque chose comme ça.
Tu confirmes?
Je sais même pas si j'ai les chiffres. Je crois qu'on a fait un pic à 295 000.
Oh là là.
Mais c'était pendant les phases de poule, c'était pas pendant la finale, contrairement à la dernière.
Ok.
Les gens intéressés par la phase de poule.
295 000, tout live confondu.
Ouais. Mais c'est parce qu'il y a les streamers que t'aimes encore en phase de poule. Ouais. Et forcément, vu qu'ils sont.
Mais oui, du coup, ça fait en cumulé, ça fait beaucoup plus de personnes.
Ouais.
J'ai capté.
Tu as vu un pic en demi quand il y avait Gotaga qui a été plus fort qu'en finale, vu qu'il n'y avait plus justement les streamers et que du coup il y avait plus la commune Gotaga.
Et oui.
Bon bah j'ai perdu.
Non mais quand en fait ça a du sens. Ouais, bref, bon, c'est un très très gros événement. Si vous vous êtes connecté à Twitch pendant le week-end, c'était inratable.
Ah bah moi vraiment, je ne regardais que ça. Du coup, j'y avais.
Non mais c'est impressionnant parce que vraiment, tu lances Twitch. Ta barre à gauche là, c'est que des événements spéciaux jusqu'en bas. Donc très très stylé. C'était éprouvant là ce week-end.
Ouais, ça va. Tous les events, hein, c'est quand t'as fini, t'es
claqué.
Content de te reposer 2-3 jours. Hein. Mais plus ça avance, plus
tu reviens quand même, donc.
Plus on est nombreux, donc en vrai, de moins en moins. On arrive à bien se partager les tâches, tout ça. Donc,
tu commences à être un habitué.
C'est pour ça que t'ai répondu lundi à
8h. Oui, mais ben vraiment, il m'a envoyé un mail lundi matin, quoi. Bon, moi, je pensais que lundi, il dormait, tu vois.
Et toi, pas.
Et moi, je dormais, moi. Mais du coup, t'en as fait beaucoup, Dylan ? T'as une petite expérience de Zilan
Bah oui, nous, c'est un événement qu'on... Je crois que c'est la 4e édition, là.
Ah ouais,
okay. Donc, c'est un événement qu'on a créé avec Zerator, hein, depuis, 4 ans. Un par an.
Okay.
Donc globalement, ça avec les Trackmania Cup, on commence à être assez habitué de ce genre d'événement.
Un peu pas grand.
Et pour la petite info, c'est toi Timothée qui nous avait donné des infos un peu sur le Z-Event dernier.
Oui.
Vous avez expliqué l'histoire de fibre de talus.
Mais oui.
Si vous vous souvenez dans le chat, eh ben c'est lui. C'est lui qui nous avait donné.
C'est comme ça qu'on s'était rencontrés.
Mais oui, parce que j'adore cette phrase.
La fibre de talus,
de compliqué.
On va revenir un petit peu sur les coulisses d'un tel événement. Tu nous as parlé de quelques petits bugs et de trucs rigolos qui s'étaient passés. On va en parler juste après. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton rôle exactement pendant un événement comme ça ? Genre, toi, ouais. Concrètement, tu fais quoi ?
Ça commence en amont. Là, donc sur la ZLAN, c'est principalement du réseau, pour le coup, ce que je fais sur la ZLAN. Donc, on va commencer par... nous, on va trouver une salle, préparer tout ce qui va être plan, technique, gérer les budgets. Et une fois qu'on a à peu près tout ça, moi, je vais commencer à me dire, maintenant, il faut qu'on commence à avoir Internet. Donc là, on va voir les différents opérateurs. On essaye... Ouais. Ouais, le timelapse c'est super stylé, donc je vous l'ai fourni en exclu. Là.
Incroyable.
Donc là on a 7 jours, on a 7 jours globalement en 2 minutes. Donc
c'est
là, vous
7
voyez.
Jours, ah oui, ouais. Installation, événement, désinstallation.
Ouais, c'est un peu particulier sur la ZLAN parce qu'on est dans une salle qui accueille des concours d'étudiants. Donc en fait, on a un peu plus de jours d'install, mais il y a des moments où on peut rien faire, il faut pas faire de bruit. On est en hauteur en fait,
c'est
et en bas il y a des concours.
Il y a des examens.
Il y a des examens en bas. Donc c'est une salle à Lyon et donc voilà, vous voyez, on est en plein event. Là on est le dimanche, il commence à avoir du public.
Et incroyable.
C'est ouf.
Ouais, j'aime bien cette vidéo.
Alors en plus, c'est pas n'importe quel événement, comme on l'a dit, c'est 230 personnes, enfin une LAN, donc de 230 personnes. J'ai cru comprendre que c'était particulièrement chiant. Et pourquoi c'est particulier
d'un point de vue réseau,
ouais.
Point de vue réseau. En vrai, je pense que la ZLAN, nous, c'est un des événements les plus compliqués parce qu'on a un peu tout dedans. C'est-à-dire que Zerator, il va choisir 10 jeux qui sont absolument pas e-sport. Ouais. Donc on n'a pas de mode ops, on n'a rien. Y a
mode
pas
observateur,
de...
du coup.
Pas de mode observateur, ouais. Donc c'est pas facile de regarder les parties. Et il faut bien se dire que la ZLAN, avant d'être une LAN, c'est une émission de télé. Nous, on l'a construit comme ça.
Ah, oui.
Donc il faut pouvoir récupérer toutes les images des joueurs. On a 300, enfin là, on avait 228 joueurs, je crois. Donc ça reste une LAN, il faut brancher des câbles. Ouais, cette vidéo me fait particulièrement rire parce que les gens qui nous regardent là vont parler de câble management. Mais on a 2 jours pour
ça.
Tout
c'est la ZLAN, mais c'est ça.
On a 2 jours pour tout installer. Nous, le but, c'est que ça soit joli côté spectateur, justement, qu'il n'y ait pas un câble qui dépasse. On veut pas que les gens viennent brancher leur câble Ethernet. On leur amène directement tout ce qu'il faut. Par contre, en effet, sous les gradins, nous, le but, c'est juste s'il y a un problème, il faut pouvoir changer un câble super rapidement et pouvoir l'analyser. Donc on sait qui est branché où,
c'est
etc.
Ouais,
c'est ça. Et donc, la deuxième anecdote, c'est que j'ai très peu branché de câbles parce qu'en fait, pendant que toute l'équipe faisait ça, moi j'étais en train de corriger d'autres problèmes. Donc là, on a juste tourné la vidéo, on me voit, mais big up à toute l'équipe.
C'est pas moi qui l'ai fait.
C'est du gros fake là.
J'ai branché un câble, aïe.
Moi, c'est plutôt ça que j'ai fait le week-end, c'est-à-dire monitorer que tout se passait bien.
Magnifique.
En regardant le live et comme
un beau Grafana.
Relativement.
Un magnifique Grafana, ouais.
Ouais,
très stylé. Non, franchement, et. Ton job, honnêtement, a l'air vraiment marrant.
Ouais, je te confirme.
Non, mais franchement, ça a l'air vraiment sympa. Et alors, t'as mentionné un truc qui est, je pense, pas anodin, on s'est pas arrêté dessus, mais on a dit, il y a plus de 200 joueurs. Tu as dit qu'il fallait récupérer l'écran, le flux vidéo de ces 200, plus de 200 postes, en fait.
On n'en récupère pas 220, on a fait une sélection, je crois, on montait jusqu'à 40 POV.
Mais c'est déjà énorme, parce que ici, il y a déjà des vidéos qui se baladent, mais... Comment tu fais ça?
Là, ça fait plusieurs années. On a essayé pas mal de solutions au cours des différents événements. Et là, donc, c'est Valentin, quelqu'un de chez nous, qui a développé un truc qui a super bien marché. On a encore deux, trois petits trucs à corriger. Mais globalement, l'idée, c'est d'arriver à s'installer sur les ordinateurs des streamers sans les impacter, parce qu'ils sont déjà en train de streamer. Nous, on veut récupérer le jeu vidéo, on veut récupérer le son, mais on ne veut pas récupérer leur son à eux. Et il faut qu'on puisse récupérer le flux derrière, donc en réseau. On a utilisé, nous, un protocole qui s'appelle le SRT pour ne pas impacter les joueurs, etc. Et envoyer tout ça du réseau joueur sur le réseau de la régie, qui est différent, pour qu'eux puissent récupérer toutes les POV et choisir en fonction tel ou tel moment.
Du coup, tu viens
afficher.
Voir chaque streamer ou joueur et tu leur dis, est-ce que tu peux installer ça?
C'est pour on avait deux personnes dédiées là, sur l'événement qui sont allées voir les différents streamers pour installer...
pour avoir leur POV, quoi. Avoir leur ordi, eux qui jouent aux jeux vidéo en régie, pas seulement sur leur stream.
C'est ça. On avait testé des choses en physique, comme tout le monde, des câbles, etc. Mais ça peut poser plein de soucis, récupérer le son. Parce que du coup, si tu les entends, nous, ça nous intéresse pas. S'ils sont en train de parler, etc., nous, tout ce qu'on veut, c'est le jeu, le son du jeu. Ça peut leur poser des soucis dans leur installation quand ils font des choses un peu particulières. Mais s'ils sont en 240 Hz, ce qui passe en 239, il y en a qui vont râler. Donc, faut vraiment pas les impacter. Sinon, on va se faire virer.
En plus, en fait, t'es dans les. Non seulement c'est un défi technique, mais en plus, t'es dans les pires conditions. Parce que, il faut surtout. Parce que, effectivement, quand tu m'as dit ça, moi, je me suis dit. Bon, le réseau, ça paraît une des meilleures solutions. Là, tu tires une fibre, tu peux faire passer... on a des flux vidéo qui passent sur le réseau en NDI. Bon, j'imagine que c'est une alternative à SRT, peut-être.
Le NDI, nous, on l'utilise beaucoup en régie. Il a plein d'avantages, mais comme tu le sais, si tu fais du 1080p 60, ça fait à peu près 300 mégas. Donc, sur un lien giga, t'en mets 3 ou 4 grand max.
Pas 40.
Non, mais en fait, ça va en faire, parce que les streamers streament, ils jouent un jeu vidéo, faut pas que ils soient impactés.
Faut pas de lag. Parce que sinon
nous, on avait à peu près 120 streams sortants quand même pendant la ZLAN de tous les gens qui streamaient. Donc, on est pas loin du gigabit en upload en permanence, juste des gens qui streament déjà. Donc, nous, il faut bien sûr.
J'ai limite envie de dire, ça me paraît pas. C'est bizarre, mais on dit comme ça, 1 giga, ça paraît peu. Mais c'est vrai qu'en montant. En constant, c'est quand même bien violent.
C'est bien le problème de faire des LAN, c'est que maintenant, les gens chez eux, avec la fibre, tout ça, ils ont facilement le giga, tout ça, et ils ne se rendent vraiment pas compte des difficultés qu'on peut avoir, nous, en événement, à venir tirer des fibres, parce que ça coûte extrêmement cher.
Finalement.
Et du coup, on trouve d'autres solutions pour qu'ils aient quand même Internet, que ça se passe super bien, mais tout en leur cachant que je suis sûr que certains chez eux, avec des fibres, ont plus que sur le réseau global qu'on peut avoir sur la ZLAN.
La ZLAN, ouais, c'est fou.
Donc le but, nous, ça reste une latence super faible, en fait, parce qu'on joue aux jeux vidéo, donc le but, c'est d'avoir quelque chose de super stable.
Et alors, est-ce que tu as peut-être des chiffres sur, en termes de débit de réseau? Tu nous disais, moi, on me parlait de, je sais pas, 56 terabytes sur le... qui transite sur le réseau.
Ça, c'était au total du week-end, je crois.
Ils ont vu ça sur une vidéo, je crois, le chat a vu ça sur un asset,
sur une vidéo de monitoring. En vrai, c'est une métrique qu'on a essayé de travailler sur le graph. Je suis vraiment pas sûr qu'elle soit bonne pour le coup. On a fait un pic à 4 gigabits seconde. Donc après, globalement, si tu prends sur 3 jours tous les gens qui téléchargent, etc., je pense qu'on n'est pas loin de la vérité, mais j'ai pas le chiffre vraiment exact.
Et est-ce que vous avez eu des petits soucis, un Michel qui marche sur un Twitch, un Michel qui fait chez... Ou un joueur d'ailleurs qui déconnecte toute la LAN comme ça, là.
Parce qu'il y a eu...
On reste sur le talus.
Plein de trucs. Cette année, en vrai, ça a été...
Ça s'est bien passé,
ça s'est assez bien passé. On a eu des petits soucis, on a eu un Switch qui a été déconnecté à un moment donné, parce que je crois qu'ils se sont pris les pieds dedans en sortant les poubelles.
Ah, donc ça arrive vraiment, ça?
C'est un agent de sécu qui est passé genre sous les gradins, parce que nous, c'est un endroit qui est pas accessible aux joueurs, donc forcément c'est pas gaffé, etc., et ils sont pris les pieds dedans pendant la LAN. C'est tombé vraiment parfaitement entre deux jeux, etc., donc aucune coupure. Après, nous, pendant l'installation, on a aussi fait des dingueries, parce que faut savoir que sur tous nos événements, on installe, franchement, on a 2-3 jours pour installer. D'abord, on va commencer à vérifier qu'on a bien Internet, on fait le cœur de réseau, on on fait les switches de distrib, on tire les fibres. Après, on va installer les switches player, nous, ce qu'on appelle, donc directement connectés au jar. Après, il faut tirer les 250 câbles, vu qu'on leur amène chacun. Ça, c'est assez long. Et du coup, quand on arrive là, il y a des. Ça, c'est une fibre de 300 mètres. Mais celle-là, j'ai décidé que je ne l'installerai jamais parce que je ne veux pas la ranger. Donc, elle est uniquement là en termes de backup. Ça fait 80 qu'elle n'a jamais été utilisée.
Tu sais même pas si elle fonctionne, en fait.
Si, si, j'espère bien quand même.
Une fois que ça l'a coûté, c'est clair.
Et du coup, donc c'est assez court en termes de temps d'install, et c'est vrai que là nous on a des switches de toutes les marques, on est un peu team récup, ouais. Donc on a, parce qu'il en faut énormément, on en a plus d'une presque une centaine quoi, et ça nous est arrivé sur des événements de désactiver ce qu'on appelle le spanning tree sur certains switches.
Ok.
Et là, le spanning tree, je vais vous expliquer, c'est très simple, c'est pour éviter quand tu mets plein de switches les uns sur les autres que tu fasses des boucles réseau, parce que ça casse tout. Et là on en avait un qui était encore désactivé, il s'avère que pendant le branchement là, justement quand on est sous les gradins, on a branché un câble deux fois sur un même switch.
Et donc ça, en fait, pour imaginer
t'as fait une boucle en fait sur le switch, comme ça.
C'est comme si tu
un
prends
un serpent qui se mord la queue.
Exactement. Et ça nous a fait qu'à 18h40, alors que les joueurs avaient à 19h le jeudi, et depuis 8h c'était nickel chrome, on n'avait aucun problème, alors que d'habitude on finit d'installer tu vois, à 17h. Là, je me suis dit, ça marche trop bien. Ça a pas raté à 18h40. On commence à avoir des petites coupures par intermittence, et on a mis franchement assez longtemps à se rendre compte que, tout simplement, on avait pris un câble de backup qu'on avait mal branché. Et du coup, la morale de l'histoire, il faut bien activer le spanning tree ou changer d'équipe ou ne pas tirer de câble de backup, parce que ça serait pas arrivé non plus.
La résolution, ça a été, t'as pris le câble, t'as débranché, tout marchait bien.
La résolution en elle-même, on a investigué, hein, donc on a commencé à changer le routeur parce qu'on pensait que il avait bien marché pendant 3 jours. Donc nous, on a commencé à passer sur le backup, etc. On a investigué et puis ensuite on a débranché petit à petit jusqu'à se dire, ok, il y a forcément une histoire comme ça, et on est du coup allé switch par switch débrancher jusqu'à trouver le problème.
Un enfer, tout ça pour un câble.
Ouais. Et c'était le seul vrai problème du week-end, donc globalement on est super contents parce que c'est super bien passé, mais c'est vrai qu'un câble nous a impacté pendant presque 1h20 quoi.
J'ai une question bête, mais c'est le genre d'événement qui est très très suivi. On sait que c'est sur internet des petits rigolos qui veulent emmerder le monde, ça existe. Est-ce que vous avez des DDoS?
Alors nous, depuis 2017, il y avait une grosse époque DDoS de toutes les LAN en France. Ouais. Donc maintenant, on s'en protège. On travaille vraiment avec l'opérateur en amont.
Ouais.
On a tout un système qui s'appelle de l'Arbor. L'idée, c'est de protéger toute la périphérie, vraiment, pas nous juste l'événement, mais vraiment même l'opérateur. Donc dès que ça va rentrer sur le réseau opérateur, ça peut être vraiment loin, à Paris ou partout, t'as des liens de peering en fait.
Ouais.
Donc nous, on s'en protège, on travaille avec eux, c'est super compliqué à faire. J'en avais parlé un petit peu aux E-Event parce que on est une LAN, c'est-à-dire que les gens, ils jouent à tout et n'importe quoi. Ils ouvrent des jeux, ils font.
Tu peux pas faire une liste blanche facile.
C'est insupportable. Ouais,
si tu veux protéger un site internet, c'est très facile. Tu connais ton site internet. T'as un port 80443, c'est facile. Là, t'as tous les choses du monde. T'as des logiciels comme Discord en vocal. Il faut savoir que t'ouvres à peu près 60 000 ports.
Donc, c'est-à-dire tous les streamers utilisent Discord.
Exactement.
Tu peux pas leur dire non, n'utilisez pas Discord.
Et donc, c'est super compliqué. On fait on travaille en amont avec la liste de tous les jeux. On essaye de faire des whitelists, etc. Tout ça pour dire que cette année, on n'a pas été du tout attaqué. Donc, on était presque côté technique déçu. T'as l'impression que t'as travaillé dans le vent.
Zéra à la fin.
C'était un effort, les gars.
Mais en même temps, non.
Ta commu, elle est trop bienveillante.
T'es toujours super content parce que quand ça arrive, tu peux essayer d'y répondre du mieux possible. Le but, nous, c'est de pas couper l'événement parce que quand t'as plus de réseau, t'as plus rien sur une ZLAN et tout impacte l'événement, quoi. Donc, t'as forcément des services qui, justement, vont être coupés, etc. Donc, on est toujours content de pas être DDoS. Mais oui, d'un point de vue un petit peu technique, t'es toujours. Tu te dis, si quelqu'un avait pu faire un petit test, on sait jamais.
Dans le chat, c'est.
Le faites pas.
C'est un challenge que tu nous proposes, ils sont tous en train de se chauffer là.
Vous avez mal compris le message.
Il faut savoir que nous, on a configuré pendant des années avec l'opérateur, hein. C'est pas le premier événement, et maintenant, il y a d'autres événements en France qui prennent notre config aussi. Et nous, on s'est auto-DDoS. On a fait beaucoup de tests. On a pris tous les DDoS existants sur le marché, notamment pour tous les. toutes les personnes qui n'y connaissent pas grand-chose, mais iraient juste chercher quelque chose de simple. Et on arrive à se protéger de toutes ces choses basiques maintenant.
Trop stylé.
Donc, ouais, ça, c'était des bons
DDoS.
Quand tu signes des messages avec l'opérateur qui t'autorise à les DDoS sur certaines périodes, machin, excellent. Sur certains trucs, c'était bien.
Là, je m'amusais. Là, il y avait un truc.
On en parlait. Ton métier est incroyable. Et le pire, c'est que une partie de ce que tu fais, puisque... les gens ne savent peut-être pas, mais tu t'occupes donc de toute l'infra-réseau. Et également, c'est toi qui codes le jeu à la con. C'est le nom, quoi. Alors, cette année, si j'ai bien suivi, c'était un Motus-like.
C'est ça, voilà. Le Zutum, on l'a appelé.
Le Motus envers, du coup.
Ouais.
C'est ça.
Bah, en fait, c'est Motus à l'envers et il y a un site qui existe.
Ça bosse, hein.
C'est. À l'édito, ça bosse.
Il y a plusieurs. C'est Zerator qui a dû trouver le.
Oui, sans doute.
Qui a dû trouver le mot.
Donc, c'est toi qui l'as codé.
Ouais, c'est moi qui l'ai codé, parce qu'en fait, ça fait plusieurs années qu'on fait des épreuves scolaires, donc en fait, j'avais codé la dictée à l'époque pour la première Zilane à l'urgence.
C'est quoi ton taf? Je code des dictées.
Bah, c'est pas si simple que ça, parce qu'en vrai, la dictée était peut-être un des plus durs, parce que déjà, t'as 200 personnes qui doivent avoir une dictée, et tu dois avoir une correction automatique, donc t'as de la sémantique,
ouais, non,
etc. C'est plus dur que le... Après, on avait fait le calcul mental, c'était plus simple pour le coup. Et en plus, on est une émission, donc en temps réel, t'as envie d'avoir les scores de là où ce que font toutes les équipes.
Ouais.
Donc t'as serveur, client, etc. Et pourquoi est-ce qu'on s'embête à coder quelque chose et pas faire un site internet, etc. Parce qu'on avait fait aussi un site de training, c'est pour éviter toute triche.
Okay.
En fait, sur le chef, on leur donne au dernier moment, qui évite tout ce que tu peux avoir en JavaScript, etc. pour tricher super facilement si on utilisait des sites classiques, quoi.
Ah ouais.
Donc à la base, c'est pour ça qu'on a utilisé qu'on le code. Et pour la petite histoire, moi je code en AutoHit, ce que absolument personne ne connaît.
C'est vrai.
Mais si j'ai appris ça depuis d'années, c'est un langage de script.
Mais c'est.
Donc ben, ça,
c'est de l'auto-hit. Personne ne connaît, c'est normal.
C'est
mais c'est un langage, tu peux tout faire avec.
Je sais que dans le chat, il y en a qui vont connaître.
Alors, il y a des ménons.
Et si, je vous jure. Le gros avantage, c'est que je le connais sur le bout des doigts, donc je peux coder avec un bloc-notes et souvent, c'est un peu short à timer.
Ouais.
Le gros désavantage de ce langage, c'est que en fait, il a été beaucoup utilisé pour faire des bots et des virus, ce qui fait qu'aujourd'hui, les antivirus ne s'embêtent pas beaucoup et souvent, le mettre direct, n'importe quel script auto-hit, le mettre directement en
génial,
pratique,
donc pas
pour
très
le
pratique. mais pour tout ce qui est scripting, etc., c'est un langage qui est super. Mais
surtout que tu fais du réseau, du temps réel, c'est pas juste un petit jeu à la coupe.
Ah non, mais il y a tout. Là, on avait des WebSockets jusqu'au serveur. Bon, le serveur n'est pas en auto-hit pour le coup. Parce que mais toute l'interaction, le protocole, etc. Big up à Alex pour le serveur, parce que ça fait quelques années qu'il nous le dev et ça marche nickel. Et surtout que 200 joueurs avec les WebSockets en permanence pour les scores, etc., ça commence à faire des petites charges.
Non, mais pour moi, c'est de l'art.
Franchement, oui.
Bon, il faut savoir qu'on le code à les 90% avant l'événement. On essaie de faire le plus tôt possible. Mais après, moi, c'est super dur de faire des tests de charge. On le fait souvent que les premiers jours de Zilane, en fait, on fait des tests techniques avec les joueurs.
Okay.
Donc, en fait, on leur fait lancer le logiciel, on fait tout tester. Il y a souvent des bugs et puis on fait. Là, par exemple, pendant la prod, on était en version 1.5. On a démarré la version 1.1.
Ah, donc genre,
il y en a eu 4 que j'ai corrigé.
En une journée.
Et notamment une, parce qu'à la base, il était beaucoup plus beau, il y avait des vidéos, etc. Mais en fait, il y a des gens qui étaient sur Windows 7 et ça passait pas. Donc, j'ai pas pris de risque, j'ai tout rollback sur des images.
Non, mais d'où tu fais une Zilane sur Windows 7? Respecte-toi!
Après, donc voilà pour l'histoire.
C'est incroyable. Et apparemment, à un moment, il y a eu un problème d'ailleurs.
Oh oui, il y a eu un problème avec le Zutum. Qu'est-ce que t'as
fait? Non, il y a eu aucun problème.
Un bug!
Non, c'était même pas un bug.
Non,
c'était voulu. Ouais, on a eu. Pour la petite histoire, on a fait une liste de mots à la dernière minute.
Il faut expliquer qu'il y a eu une game où vous avez dû la relancer. Genre, elle était lancée et tout, vous avez dit aux joueurs non, on annule, on recommence.
Ouais, on a annulé une partie en fait parce qu'on a fait la liste de mots à la dernière minute pour qu'il y ait le minimum de gens qui la connaissent. Et
la liste de mots à trouver.
Ouais. Ça, donc, c'est sur le serveur. On a 15 mots qu'on répartit en 3 séries de 5. C'est du JSON, tout ça. Et en fait, il y avait un seul mot qui avait 9 lettres. C'était cuticule avec un S. Voilà.
Le fameux
cuticule. Bout des doigts pour ceux qui connaissent pas.
Et du coup, bah, ce mot-là de 9 lettres, dans les règles du Zutom, on avait bien précisé aux joueurs, c'est entre 5 et 8 lettres. Donc le client était codé pour. Et en fait, quand les joueurs sont tombés dessus en random, parce qu'ils ne tombent pas en même temps sur les mots pour éviter toute triche, ouais. même si chaque équipe a les mêmes mots, donc comme ça, ouais. ils sont à égalité de chance. Ouais. Et du coup, au moment où en random, ils sont tombés dessus, le client était bloqué. Donc là, on est obligé d'arrêter. On a changé de série parce que des gens qui avaient déjà fait un ou deux mots avec 4 ou 5 tentatives, ils les auraient réussi en une tentative. Donc on est passé. Heureusement, on avait prévu un peu de série de backup.
Hey, mais en plus, pour t'en apercevoir,
et on a mis un S.
Et donc, en fait, t'as vu des mains se lever en
j'ai
mode
vu des
de,
mains
ça marche pas. Et vu que c'est
et pas
tous
en même temps.
Temps.
Ah ouais, et pas en même temps, donc au début, la ZLAN, toujours, il y a toujours un ou deux personnes qui peuvent avoir des problèmes sur n'importe quel jeu. Ouais. Quand il n'y en a pas beaucoup, ben, ça arrive, ça peut être sur leur machine personnelle, etc. Donc, et là, quand tu vois plusieurs mains se lever, etc., on a mis à peu près 1 minute 20, du coup, à dire on cut et on recommence.
Mais alors, c'est toi qui as laissé passer cuticule
Ben, moi, j'ai laissé passer parce que je trouvais ce mot trop mignon. Quand j'ai vu la liste, oui, j'ai fait cuticule, c'est mignon, et ben, personne ne l'a vu, on a deux ou trois à avoir vérifié, et ben, c'est passé.
Ça marchait.
Esprit,
il n'y avait pas de bug.
Voilà, juste une lettre, quoi.
Il y a quelqu'un dans le chat qui nous dit il n'y a pas un PC qui a pris feu. Je ne sais pas si c'est une info de chat.
Zerator a parlé de ça à un moment donné, mais c'est une info, ouais, c'est une info Zerator. Non, en régie, on a du matériel qui permet de récupérer toutes les caméras. Qu'on utilise tout le temps, comme toutes les prods, que ce soit même en télé ou en e-sport, on a pratiquement tous le même matériel. Par intermittence, il se mettait à plus répondre au contrôle. Donc c'est un peu chiant parce que si tu peux rester bloqué sur une caméra, donc c'est un peu différent de vous, il y a une caméra vide. Mais...
Oui. Tout le monde a ses problèmes.
On a tous des petits problèmes. Voilà.
Et du coup, on l'a changé, on a analysé et le problème revenait. Donc là, encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce qui s'est passé. Mais après, nous, on a un peu un leitmotiv en régie, un peu comme vous d'ailleurs. On automatise un maximum de choses pour qu'il y ait le moins d'erreurs humaines possible. Et je pense que tout simplement, il y avait peut-être trop de choses qui essayaient de lui parler et de le contrôler. Et il y avait... forcément quelque chose qui se passait, qui le faisait bugger et reset. Ouais. Donc voilà, c'est heureusement on avait un backup, mais du coup il a pas cramé. Après la régie avait chaud quoi.
Il y a pas eu d'extincteur utilisé. Voilà.
Ouais, on a déjà fait des events il y a très longtemps où ouais pour le coup on avait vraiment chaud, on a ramené des ventilateurs pour les PC etc. C'est déjà arrivé. Ouais. Mais non, on est beaucoup plus pro donc.
Moi j'ai déjà vu ça dans des data centers. Donc après bon voilà. Ramener des ventilateurs parce qu'il faisait trop chaud.
Alors... Autre question, est-ce qu'il y a des gens qui jouent sur Linux?
Sur les ZLAN, tu peux pas, parce que t'as vraiment des jeux, t'as du Steam, t'as du Microsoft, t'as du Ubisoft, il y a plein de jeux qui passeraient pas sur okay. Windows.
C'est une question que j'ai vue dans le chat qui me paraissait intéressante.
Ouais.
Pour fêter ta venue, parce que nous sommes très honorés que tu viennes, il y a Nicolas qui est venu
avec vous m'ayez invité.
Une petite surprise. Mais ouais. Non, mais au premier degré, c'est vraiment rare d'avoir des comme ça des coulisses et des
ouais, trucs, des profils trucs. Comme ça.
Mais oui.
Ça tombe bien. Ouais.
C'est pour ça qu'on fait cette émission aussi d'ailleurs. Et donc Nicolas, on a une petite carto peut-être.
Ouais, alors c'est on va dire c'est la cartographie anniversaire puisque comme si on l'avait dit, mais ça fait un an pile grosso modo que la première fois que je suis venu.
Oui.
Et c'était aussi pour une ZLAN et donc du coup forcément.
Et donc t'as fait la carto de la ZLAN.
Forcément, évidemment. Elle est pas mal.
Elle est différente un peu de l'année dernière. Elle est moins compacte.
C'est ça, exactement.
Elle est quand même plus étirée.
Exactement. C'est la première chose qui m'a sauté aux yeux.
Il y a l'œil du cyclope.
Exclusivité pour un
deuxième
elle a été sortie nulle part, celle-là encore, j'ai attendu de la montrer ici. Magnifique. Et donc du coup, comment on la lit? Alors pour ceux qui découvrent ça, c'est cette cartographie, en fait si on zoome, vous allez voir, c'est des points reliés les uns entre les autres, et en fait chaque point représente un compte Twitch, et donc plus le point est gros et plus le point est viewer, donc c'est les streamers qu'on voit en gros, et les points tout petits ce sont les viewers. Donc c'est-à-dire que si vous avez regardé Twitch ce week-end, vous êtes ici, vous êtes un des petits points, donc un des petites traces blanches que vous avez là.
Je
peux
être coupable, j'y étais. J'y fus.
Et en fait, ce que j'ai vu dans cette cartographie, comparé à la ZLAN de l'année dernière, c'est que c'est beaucoup moins, on va dire, concentré autour de Zerator, et que l'événement, en fait, il s'est un peu plus partagé entre les streams que l'édition d'avant. L'édition d'avant, on retrouvait les streamers, mais c'était vraiment collé à Zera, là où maintenant... C'est,
il a de la concurrence sur son propre événement.
En fait, ça a été, les gens ont plutôt suivi différents streamers en même temps, mais il y a quand même Zerator qui est au milieu.
Ouais, quand même.
Et il est entouré même. Alors là, ce que vous voyez, les petites traces blanches.
Il est quand même gros.
Alors là, ce que vous voyez, toutes les petites traces blanches, ce sont des pseudos qui sont tellement collés les uns aux autres, c'est tellement dense que du coup, le pseudo est écrit en blanc. Donc ça fait cette espèce de nuage-là.
Ah oui, d'accord, ok.
Donc,
ouais, après, moi ça me choque pas du tout, c'est un peu l'essence de l'événement. Ouais. Zerator, comme il dit, c'est un peu le tour de contrôle, on essaye de suivre l'émission, etc. Mais quand t'as autant de personnes qui jouent, les gens ont envie de voir des fois les POV de leurs streamers, etc. Ça fait vraiment partie du truc, donc ça m'étonne pas du tout.
Ouais. Gotaga et Kamel sont assez gros, hein, si on regarde.
Moi, quand j'ai lancé la Zilan, je savais pas, en fait il m'a fallu genre une demi-heure pour me dire bon alors comment je la regarde, est-ce que je vais sur le stream parce que j'avais envie de regarder Étoile, j'avais envie de regarder Gotaga, ouais. J'ai envie d'être sur le stream principal de Zer en même temps, sauf que si tu mets les trois, c'est impossible, tu vas t'arrêter. Et donc du coup c'est vrai que en fait t'as tendance à pas mal switcher, même j'ai pas mal regardé Ponce aussi, et Ponce en fait pendant les pauses entre les jeux, Ponce lui avait son stream d'allumé et il débriefait, donc tu vois tu faisais facilement la bascule
et,
aussi,
et tu peux le voir ça
tu peux le voir, alors il faudrait du coup filtrer la cartographie pour ne garder que la Zilan, qu'elle soit plus propre, on va dire. Ouais. Mais ça, c'est des phénomènes que tu peux voir. Bah d'ailleurs, en fait, tu vois toutes les petites, les petites lignes blanches que tu as entre des streamers et Zerator. Ce sont des gens qui se vont entre les deux. Là. Tu vois la ligne entre Ponce et Zerator, ce sont des gens qui, justement, switchent entre les deux. Entre les deux.
C'est des barres.
Pareil pour Samuel Etienne. Regarde, t'en as une autre pour Samuel Etienne et t'en as tout ça.
Gros joueur Zilan. Samuel Etienne.
En fait, ce qui est marrant, c'est que là, c'est une cartographie de Twitch pendant la Zilan. Et c'est pour ça que souvent on m'a demandé, parce qu'on m'a demandé aussi pour la Pixel War, on dit il y a OTP LOL, mais ils n'ont pas participé à la Pixel War. Mais je dis non, c'est qu'il y avait un événement, ils ont streamé pendant ce temps-là, mais c'est Twitch pendant la Zilan. Parce que c'est plus intéressant, parce que tu vois l'impact de l'événement sur la plateforme en entier. Alors que si tu regardes que l'événement, tu vas pas être trop surpris, tu vas voir que les streamers.
Il y avait des streams aussi pour la soirée présidentielle en même temps que la Zilan, donc ils doivent apparaître également. Il y a des gens dans le chat qui. Hugo Décrypte,
Jean Massier, ils sont en rose en fait. C'est tout ce que vous voyez un peu en rose ici. On voit qu'ils ont la même couleur, mais ils sont pas mis au même endroit. C'est-à-dire que l'algorithme qui détecte les communautés.
A compris que c'était un autre délire.
A compris qu'ils étaient ensemble, même s'ils n'étaient pas forcément spécialisés les uns avec les autres.
Pas la même ambiance.
Autre ambiance.
En fait, il a regardé les chats.
Bizarre l'ambiance.
Pas pareil.
Non, c'est intéressant. Nous, on se posait aussi la question de savoir à quel point, tu vois, l'élection, et puis sur la chaîne d'OTP aussi, pour les finales, je crois que c'était les. Je peux dire
la LEC,
à quel point ça pouvait impacter, tu vois, le nombre de viewers, tout ça, et s'ils font des allers-retours ou s'ils sont pas du tout intéressés, là tu vois vachement un peu les interactions.
T'es fou.
Je trouve ce qui est intéressant aussi avec cette cartographie là, c'est qu'elle montre que le Twitch français en un an, c'est déjà pas mal aussi diversifié, parce que toute la partie qui est à gauche, du coup, c'est toute la partie qui est pas vraiment concernée par la Zilan. Donc ce sont les gens, alors on voit les jeux, par exemple en bas t'as Fortnite, au-dessus t'as Warzone, etc. Donc
Twitch continue à vivre même quand il y a des gros événements.
C'est ça. Et avant c'était déjà le cas, mais c'était plus restreint. Et là, aujourd'hui, par exemple, on voit il y a Amin qui est en énorme parce qu'il a fait un live avec Inoxtag et Michou, justement. Et du coup, en fait, il ressort beaucoup. Il y a même JL Amaru ici. Et en fait, ça montre aussi que
Inoxtag et Michou qui doivent être sur YouTube, du coup, ils sont pas sur la carte, c'est ça?
En fait, ils étaient chez Amin, vraiment.
Ils étaient chez Amin, pardon.
Donc, mais oui, sinon, ça
c'est après avoir les clips et de Webedia et.
Voilà, c'est ça. Et donc du coup ça montre aussi que la plateforme prend en maturité, parce qu'il peut y avoir des énormes événements comme un The Event, une Zélan, même quand d'autres streamers font des gros événements.
Et il y a encore d'autres trucs.
C'est ça, il y a encore un écosystème qui vit autour, et ça je trouve que c'est hyper cool, parce que si on peut continuer à avoir le talent d'événementiel qu'a Zerator pour justement faire bouger la plateforme, mais qu'en même temps ce ne soit plus non plus le... En gros, que la plateforme s'arrête de tourner pendant ce temps-là, je trouve que ça peut créer justement un écosystème qui est de plus en plus, qui va parler à
riche,
plus de monde, qui, les gens vont pouvoir trouver ce qu'ils veulent, et puis je trouve ça trop cool.
Très stylé, très très stylé. Et puis ce qui est fou, c'est de le mesurer en fait, c'est d'arriver avoir une intuition de ça, mais comme souvent dans la data visualisation en fait, là on arrive à le mesurer quoi.
Surtout quand ce sont des gens qui connaissent bien les sujets, je leur montre une cartographie, c'est le premier truc qu'ils me disent, c'est qu'ils me disent « il n'y a rien qui me surprend ». Mais j'aurais été incapable de te dire pourquoi, comment, ou de te le justifier. Et là, la cartographie, souvent, elle vient conforter des pressentiments. Et c'est ça qui est trop cool.
C'est fou. Trop stylé.
J'ai une question du chat, Timothée.
Dis-moi.
Qui demandait est-ce qu'il y avait des gros préparatifs pour la TM Cup, la Trackmania Cup qui arrive à Bercy. Je sais pas si tu travailles dessus.
Leak.
ça a été annoncé.
Nous, on la prépare depuis 3 ans. Donc. Bercy, c'est assez énorme. Donc, pour le coup, ça a été déjà reporté deux fois. Donc, il y avait une grosse partie du travail qui était fait. Et là, nous, on rattaque très doucement à tout remettre en place.
Parce que là, ça
va être un beau projet.
Nous, c'est notre petit bébé. Là, on a hâte. En vrai, c'est aussi ce métier, parce que dès qu'il y a du public, etc., et que t'es derrière backstage, c'est juste. Voilà, c'est trop bien.
Et puis...
Donc là, juste même, tu vois, sur la Zilane, 300 personnes du public qui crient et tout ça, ça te galvanise de ouf.
Alors, il y a 15 000 personnes.
Trop intéressant.
Il faut pas t'impressionner, mais... Non, mais en vrai, dans une carrière ou je sais pas quoi, mais vivre un Bercy, d'un côté coulisses...
C'est fou.
C'est incroyable.
Je vous invitera si vous voulez.
Non, mais,
mais franchement, nous, on est méga chaud.
On était trop contents d'avoir. Et s'il y a les prochains événements, on est méga.
Voilà, Track Manicup, pour le coup, en réseau, t'as pas grand chose, tu vois, parce que t'as 8 joueurs sur un plateau. Moi, je suis tranquille. C'est beaucoup plus l'aspect régie, là, pour le coup. Ouais. C'est le show, tout ça. C'est vraiment une autre partie aussi de notre travail. Donc,
ça arrive bientôt, non? C'est début juin. J'ai pas les dates, mais ils vont nous dire.
C'est une question. Je crois que c'est le 4 juin. Mais sinon, c'est tmcup.fr et toutes les infos.
Let's go, allez voir ça.
Allez voir ça.
Merci encore d'être venu. Il paraît que t'es venu en plus de Lyon.
Ouais.
Pour nous voir, donc ça fait trop trop plaisir. Et on te retrouve dans les coulisses des autres événements à venir.
Tous les gros événements. Il y a Zerator, il y a cet homme derrière.
Ça c'est beau.
On est nombreux, hein, Michel. Hein.
Oui.
Beaucoup de Michel.
Et on arrive doucement à la fin de cette émission finalement.
Tu déconnes.
Mais oui. Et alors, premier degré, c'est adoré. Il y avait plein de sujets.
Ouais, mais j'ai pas vu le temps passer. Il est 20h37, d'accord.
Non, mais c'était vraiment passionnant. Avant de partir, attendez, parce que je vous retiens, il faut absolument penser à follow cette chaîne Twitch si vous avez apprécié cette émission.
Bah oui. Il faut cliquer sur le petit bouton. Parce qu'après, moi, je me fais engueuler parce que les gens, ils s'abonnent pas. Non, c'est pas vrai,
Je vais me faire.
Les gens vont croire des trucs après.
Au follow.
Voilà, je fais.
le salaire de Mathieu est uniquement
et indexé.
Indexé sur le cours du follow. Donc
j'imagine qu'ils se désabonnent. C'est évidemment faux.
Merci énormément à vous trois. Est-ce qu'on peut te retrouver, Nicolas?
Alors maintenant sur Twitch, c'est
la petite Dorothée.
C'est vrai que t'as lancé ta chaîne Twitch.
Et
toi,
ouais, c'est tout neuf. Donc Datalgo, comme Data Algo, et on mélange les A. Donc alors ça s'adresse à un public particulier, on va dire, pour l'instant, parce que il arrive qu'on passe des samedis soirs. Bah, il arrive qu'on passe le samedi soir à coder du Python pendant 6 heures. Ah. Donc des fois c'est l'ambiance un peu particulière, mais même je fais des cartographies.
Moi je vais regarder Trackmania.
On fait des cartographies, je montre un peu comment ça marche. On parle même d'actualité des fois quand il y a des sujets. Par exemple, il y a une cartographie qui a été publiée dans le journal Le Monde récemment. Et donc du coup on représente. Et je suis passé en mode Samuel Etienne, j'ai pris le journal, Robert. Petite caméra, et puis on a lu un peu l'article et tout, donc c'était cool. Okay. Et donc du coup, si ça vous intéresse, que vous voulez aller au bout de la date.
Allez-y à fond, c'est sur ton Twitch.
C'est ça.
Qui passe dans le chat en plus. Les modérateurs sont incroyables.
Où est-ce qu'on peut te suivre sur Twitter peut-être?
Sur Twitter, mais moi je vais retourner dans ma grotte. Hein. Deux techniciens et Michel.
Ne t'inquiète pas.
Et puis nous, l'actualité de ZQSD, c'est on va reprendre un petit peu les émissions en plateau sur Lyon. Là, on a nos studios. Donc pour des marques, des éditeurs, on fait beaucoup de marques blanches, c'est pour ça que les gens ne connaissent pas forcément. Ah oui. Et puis après, prochain gros event, la Zilane, petite bébé. Je vais y arriver. La Trackmania Cup, notre petit bébé.
Merci. On en a déjà parlé. Je pense qu'il y en a beaucoup qui y seront. Merci beaucoup Mathieu. On se suit sur sa chaîne finalement.
On se follow.
Voilà. Sur sa chaîne qu'ils ont follow de toute façon tous.
Oui. Vous avez au follow.
Underscore, c'est dans 2 semaines. Mercredi prochain, ce sera petit live chill concept, on verra. Donc voilà, et puis merci beaucoup à l'équipe pour la préparation de cette émission. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée.
Salut.